Et bonsoir à tous! Comment vous allez les goulinoises?
Ah oui, pardon.
Il faut qu'ils prennent la parole à un moment, hein.
Oui,
Enfin,
salut à
les
toutes et
deux.
à tous. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça va bien, les goulinoises. Vive le football club de Nantes. Le seul. Alors, moi, je suis
Vous
Ouais.
avez les mêmes goûts que Pascal Pro, mais ça vous inquiète pas plus
Oui,
que ça.
voilà. Moi, je supporte le même club que Pascal Pro. Je suis vendéen comme Bruno Retailleau.
Et salut Mona quand
Salut à toutes et tous.
même.
Est-ce que tu as passé un bon week-end? J'ai appris que toi, tu avais bien apprécié la victoire de l'Angleterre à la Coupe du Monde de rugby féminin.
Ah ouais, j'adore. J'adore voir gagner les Anglais.
Oui, ah bah oui. En fait, il faut savoir, ce mec adore l'Angleterre. Il adore tout ce qui est civilisation, roast beef, tout
Oh.
ça.
Wow,
Waouh!
ok. Alors juste parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec les façons de jouer d'une certaine équipe, voilà, tout de suite on est raciste.
Tu es raciste des Anglais.
Non,
Si.
oui, ça me prend du temps même pour le dire. Mais non, 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 pas du tout.
Tu es littéralement raciste des Anglais.
Je trouve qu'ils aiment beaucoup trop la faute et l'échec à l'arbitrage. Mais c'est un autre débat, on n'est pas là pour parler de ça.
Un problème de pétode, Abraham.
De pétode,
Exactement.
ouais.
C'est tout à fait un problème de
On
pétode.
reconnaît bien là vos
Oui.
pétodes.
Alors, pour info, quand même, c'est parce que ce maillot, il est quand même doublement pas safe. Donc, déjà, le FC Nantes, ok, même club qui est supporté par le FC, par Pascal Pro. Mais aussi, bon, le Hellfest. Mais là, encore une fois, c'était, je l'ai acheté à une époque. Enfin, ma mère me l'a offert à une époque où il n'y avait pas encore
Big
toutes les
up à
shitstorms. Oui, big up à elle,
elle.
si elle est dans le chat, pur coréen. Maman, je t'aime.
Oh, c'est trop mimes. Alors, du coup, on a mis une ambiance de fou, alors qu'on va parler de trucs hyper dark juste après. Ça va être génial, vous allez voir.
Voilà.
Bienvenue dans la
Bienvenue dans la
gouline.
gouline. Alors attendez, peut-être quand même pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on vous rappelle Cardiatouba 22. Salut Cardiatou. Pour ceux qui ne savent pas, donc nous. Alors, Bayrou, notre.
Combien de cardiatou a-t-elle de
Je ne sais pas combien de Cardi B, dis-nous.
Parce qu'à chaque fois qu'elle est là, c'est son premier message dans le chat.
Oui, c'est vrai, elle se réinscrit, tu vois.
Ouais.
Alors
C'est beau, c'est beau, c'est beau.
pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, donc notre ficus, Bayrou est décédé. Il a brûlé. Et du coup, nous avons un nouveau ficus, Sébos, ici présent,
C'est
là.
le même, mais en différent.
Voilà. C'est une IA.
Sans aucune corrélation avec aucun politicien.
Voilà, de type Premier ministre, pour l'instant. Ouais, bah bon, on peut passer à la suite,
Ah
hein,
oui,
je pense.
bah, d'ailleurs, vous avez vu qu'il va annoncer son gouvernement mercredi, il me
Oui,
semble.
c'est ce que. Ouais, selon la légende, hein.
Selon les médias.
Oui, selon les médias, on va voir, on va voir. Est-ce que vous pensez qu'il y aura son gouvernement d'annoncer là cette semaine?
Avec ou sans Retailleau? Ben, on peut y aller dans le sondage. Là, il y a des pronostics. On peut faire un Eleven All-Star.
Ah merde, ce serait tellement bon. Il y a des diplômes, votre ficus. Eh, hey, Abraham, tu vas arrêter de spoiler,
Ouais, faut
s'il te plaît.
pas.
S'il te plaît. Ok? Déjà, t'étais pas là la semaine dernière. Où est-ce que t'étais? Ramène-nous ton carnet de. Et voilà ton carnet de présence.
Ça voit que ça fait longtemps qu'on n'est plus à l'école.
Oui, clairement.
Bon,
Allez.
allez, pour se faire une transition en parlant de services publics, on va pas parler de l'école, mais on va parler de la santé.
Oui. Voilà.
Excusez-moi.
Tu es tout excusé.
Donc, pour commencer cette petite tour d'horizon de l'actualité politique et médiatique française, on va parler de Valérie Pécresse qui continuait dans sa propagande validiste. On se souvient de son debout.
On parle de notre santé.
Bah, la santé en règle générale, Mona.
Oui.
Là, en l'occurrence, on va parler de l'arrêt des subventions pour la MDPH de l'Île-de-France.
Maison départementale des personnes handicapées.
Exactement. Donc, Valérie Pécresse et sa majorité ont discrètement, parce que c'est pas le genre de truc qu'on va pas faire des TikTok pour annoncer ça, mais ils ont fermé les valves de la MDPH d'Île-de-France. Il faut savoir qu'il y a la MDPH, c'est l'organisme qui s'occupe d'attribuer les rémunérations aux personnes comme Mona Roussière qui ont une sciatique et qui ont mal au dos.
Alors, un autre conseil à te donner, Mona, arrête de fumer. C'est gratuit.
Ok, des messages personnels envahissent
Attaque
la
perso.
gouline.
Toi aussi, tu nous as manqué, Abraham. Hein. T'inquiète, t'inquiète.
Mais effectivement, du coup, bah, ça commence. Hein, le cassage permanent des services publics ne s'arrête pas, continue d'être de plus en plus violent.
Alors, Mona Roussière, non, pas du tout. Le MDPH,
RQTH.
RQTH, reconnaissance de qualification de travailleur handicapé, un truc comme ça. Ce qui permet après
Elle
d'avoir.
n'attribue rien du tout.
D'accord.
Et c'est elle qui valide ou non les dossiers pour avoir les subventions,
À terme, oui,
pour avoir
effectivement,
les
avoir
aides. Donc,
l'AAH. Mais bon, elle instruit les dossiers. Oui,
oui.
bon. Non, mais parce que Mona Roussière a fait du droit. Donc là, tu vois, je veux dire, si tu n'es
Oui.
pas extrêmement précis, voilà. Donc, pas des mouches, hein, clairement, tu vois, je veux dire, ça ne va pas se passer.
On peut dire que Mona Roussière, c'est la loi, du coup.
Mona Roussière, c'est la loi. Mona Roussière, c'est un peu la
Mais
référence.
effectivement, ce n'est pas eux qui attribuent les bourses, etc. Mais c'est quand même des démarches administratives qui prennent très longtemps, hein, déjà en l'état. Et s'ils ont encore moins de moyens, bah, c'est des démarches qui vont être encore plus retardées. Enfin, c'était tout à fait française. Mais du coup, c'est quand même une problématique pour la santé, parce que c'est des personnes qui ont besoin de ces subventions, enfin de ces aides pour vivre. Bah, quand tu as un dossier à la MDPH, généralement, tu peux pas trop travailler, quoi. Donc, c'est des gens dans la précarité, déjà dans la précarité, qui ont des difficultés, parce qu'il faut rappeler que les fauteuils, c'est pas bien remboursé, que ça coûte cher aussi. Même si une bonne partie est remboursée, heureusement pour nous, grâce à la santé publique en France, mais c'est quand même des frais importants pour ces personnes. Et on pense à toutes les personnes qui ne sont pas forcément en fauteuil, mais qui peuvent avoir d'autres handicaps, visibles ou invisibles, et qui peuvent aussi avoir besoin de cette aide pour survivre, en fait, tout simplement.
Oui, parce que voilà, la RQTH et les RQTH, donc c'est juste scandaleux parce que la MDPH donne des conseils, oriente les gens, les accompagne et instruit les dossiers de reconnaissance du statut de travailleur handicapé. Voilà, et comme disait Somat, donc handicap visible et handicap aussi invisible, c'est-à-dire bah, tout ce qui est de question de santé mentale, hein, toujours le parent pauvre de la
Pas
santé,
que, hein,
évidemment.
il y a beaucoup de maladies aussi
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
viscérales, je pense à des maladies
Oui, c'est
viscérales
vrai.
notamment, qui peuvent causer des dérangements quotidiens. Les gens qui ont des CEP aussi, qui ne sont pas forcément dans un état visible d'handicap, mais qui peuvent
Voilà.
avoir des matins où ils n'arrivent pas à se lever de leur lit, quoi. Et du
Dans tous les
coup,
cas, des personnes
dans tous les cas, des
fragilisées. Ouais,
personnes
voilà, Mona
fragilisées.
et Abraham, on est d'accord. Mais voilà, en un mot commençant, hein, franchement, de toute façon, l'article de l'UMA le montre bien. Honteux. Bah, je ne sais pas moi comment le dire, mais.
Bah, déjà, ne serait-ce que faire ça en soum-soum, j'allais
Oui,
dire, mais
bah oui, c'est ça, hein.
faire passer ça en sous-main, un peu comme les réformes budgétaires de notre gouvernement. Donc, bah, on est vraiment, clairement, je pense que le LR, peut-être Valérie Pécresse, mercredi, dans la Eleven All-Star du gouvernement.
Dans le Eleven All-Star du gouvernement, peut-être, effectivement.
Vous avez des pronostics chez vous,
Bah, n'hésitez
les
pas. Hein.
Goudinoises.
N'hésitez pas à nous les donner, hein, franchement. Hein. Enfin, pas trop fort, quand même, s'il vous plaît.
Bah, pour l'instant, on a un gouvernement, il est démissionnaire. Hein,
Salut, déjà, c'est la 102, c'est la SAN, c'est la 102. Les élèves qui nécessitent une aide particulière, AVSRD, à l'école ont besoin d'une modification MDPH, donc réduire le champ d'action de la MDPH et aussi. Empêcher certains élèves de suivre au mieux leur scolarité. Hello camarade, by the way, bah, hello à toi. Merci de participer. N'hésite pas à nous suivre et à t'abonner. Voilà, parce que maintenant c'est tout à fait possible de s'abonner à lâcher ton meilleur prime. C'est encore September.
ouais, dès que tu vois quelqu'un, abonnez-vous. Je
Bah oui, mec, c'est le
peux pas
business, hein.
t'empêcher.
C'est le business,
Business is
mec, hein. C'est
business.
business, is business.
Mais
Hein.
tout à fait, c'est la SAN.
En vrai, tu as raison, tout à
Bruno,
fait.
oh non, arrête. Regarde, tout, elle vient de réaliser un truc.
Attends, mais Cardiatou, elle est de retour avec un autre compte là?
C'est
Mais
vrai,
c'est pas possible.
En fait, elle a 22 bots qui
Ouais,
regardent
c'est clair,
l'émission.
c'est clair,
Donc,
c'est
je ne
clair.
sais pas combien on est ce soir, mais si on est 23, il y
Voilà.
a nous et il y a
Hier, c'est
Gardiatou.
22, les 22 comptes de Cardiatou.
Aïe, aïe, aïe.
Non, mais bon, par ailleurs, sur donc. Oui, pour revenir sur ce que disait. Sur ce que disait. J'ai 22 comptes, voilà. 22 qui est mon chiffre fétiche. Est-ce qu'on s'en fout? Tout à fait, on s'en fout. Ce que disait Célassène, bah oui, c'est tout à fait vrai. Hein, c'est qu'on a à la fois sur les adultes handicapés, mais c'est aussi sur les enfants aussi, tu vois.
Tout ce qui aux...
Ou handicap,
aux
quoi,
personnes
finalement. Ouais.
handicapées,
Oui, clairement.
maison départementale des
Oui.
personnes handicapées, bah, ça touche beaucoup de choses par rapport au handicap. Hein.
Oui.
On n'est pas spécialiste dans le domaine. Hein. Je pense que si vous allez faire des recherches, vous trouverez toutes les démarches qu'ils traitent. Et je pense que ça peut faire froid dans le dos de se dire que, effectivement, encore un public très fragile va en prendre plein les dents, quoi. Mais bon, ça. C'est une habitude actuellement avec la politique depuis 30 ans, mais je n'ai pas connu la politique il y a 30 ans comme je la connais maintenant, mais c'est vrai que là, ça commence à devenir sérieusement redondant
Ah,
et
redondant.
sérieusement inquiétant.
Et là, tu parlais du chiffre 30, mais il y a aussi un côté retour aux années 30, dans le sens où, genre, les gens. Enfin, faire des politiques d'austérité sur les handicapés, et après, ça va être quoi la suite? En fait, c'est ça, moi, la question que j'ai envie de me poser, malheureusement. Ça va être quoi la suite, en fait? En fait, on va les parquer. Bon, bref, j'ai pas envie de me la ramener, mais. Enfin, de la ramener sur ça, mais franchement, la pente. Les handicapés, et ça fait partie des fragiles de notre société, ça fait aussi partie de ceux qui sont les victimes, les premières victimes du fascisme. Voilà. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi qu'on se pose les bonnes questions. Alors, Cardiatou, mon secret à découvert, c'est Goulin Story. Si tu veux, j'ai pas la ref. Mais si j'ai la ref, c'est la story.
Ah, ok.
On y est déjà, toutes les personnes fragiles sont laissées pour compte.
J'avais pas la
Oh, c'est pas grave, c'est pas grave,
J'avais
c'est
pas
pas
la
grave.
ref du
Vas-y,
tout.
vas-y, on passe à la suite, on passe à la suite. Retour du travail des enfants à partir de 16 ans obligatoire pour payer les retraites à 70 ans, et pourquoi pas?
Ouais.
Et pourquoi pas? Hein?
Bah, notre cher Louis Sarkozy a dit que pour lui, on devrait indexer ça sur l'espérance de vie et que on verrait un truc autour de 66 ans, 66 ans et demi.
Oui, mais oui, Louis Sarkozy.
Il aime bien repousser les fenêtres, Louis Sarkozy. Et d'ailleurs, il a fait, on ne vous repartagera pas parce que ça lui donnerait trop de visibilité, mais il a eu l'audace de refaire un.
Il retourne manger
Bah,
des
il a fait,
mangues.
bah justement, Célassane, il a fait une vidéo où il mange des citrons maintenant. Il a arrêté les mangues. Il a été faire une balade à cheval dans les collines de Menton et il a mangé des citrons. Et il a refait exactement le même sketch qu'il avait fait pour les mangues. Ceux qui n'ont pas la ref.
Faut distinguer espérance de vie en bonne santé, Mona Roussière.
Ah oui, bah on est bien d'accord
On est
ici
d'accord.
avec toi, Monaro aussi.
Sauf que tu vois, je veux dire, Louis Sarkozy, lui, c'est un bourgeois. Donc en fait, son espérance de vie, c'est globalement son espérance de vie en bonne santé. Tu vois, je veux dire, c'est pas comme nous qui
Même pas
trimons. Hein.
forcément, mais c'est juste que n'est pas la pénibilité du
Ouais,
travail.
clairement pas.
Donc en fait, pour lui, tant qu'on est en vie, on peut travailler. Ouais, c'est les bourgeois, ils travaillent très longtemps parce qu'ils peuvent travailler, parce que de toute façon. Soulèvent pas des charges, ils vont pas se casser le dos à l'usine, ils sont jamais dans le froid, ils sont toujours bien à l'aise dans leur beau fauteuil. Facile comme ça.
Arrête, t'oublies qu'ils prennent des risques quand même pour notre pays, pour notre économie.
Les investisseurs.
Ouais.
Mais donc du coup, pour continuer dans la santé et le médical et le paramédical, parce que on continue de mettre des coups de semence. Dans tout ce qui est subvention et tout ça, on va parler des pompiers un petit peu. Les pompiers. Ah, excusez-nous, on n'a pas coupé le son.
Nous aussi, à ces rigueurs budgétaires, et
Voilà,
l'État vient à nouveau
extrême
de
de
repousser
gauche. On
l'apparition
l'a
d'un
laissé parler,
décret
le
pour des
pauvre.
bonifications de points de retraite que pouvaient éventuellement avoir les pompiers volontaires qui sont, vous le savez, 80% de l'effectif des sapeurs-pompiers de France. Additionnant à cela le fait qu'ils décident également de remettre en question la prestation de fidélisation et de reconnaissance, qui est un avantage que les pompiers volontaires peuvent obtenir après une quinzaine d'années d'activité en tant que sapeurs-pompiers volontaires. Tout ça fait bien trop. Les remerciements, les félicitations après les feux de l'Aude semblent bien lointaines en cette rentrée difficile. Et nous avons besoin de vous pour que ce message porte, que l'État entende, que la bonne volonté, l'altruisme, l'engagement dont font preuve l'ensemble des sapeurs-pompiers de France.
Donc voilà, donc un appel à la mobilisation aussi chez les sapeurs-pompiers, notamment parce que, bah, comme tout le monde, ils se font avoir par le système en place et que malgré le côté nécessaire de leur profession et de leur engagement, parce que là, en plus, on parle des sapeurs-pompiers volontaires, qui pouvaient en fait bénéficier d'une réduction de leur nombre d'annuités grâce à leurs travaux, mais leur dévouement pour aller sauver des gens, hein, parce que les sapeurs-pompiers volontaires, c'est des gens qui vont sauver des gens parce qu'ils vont faire les sorties avec les sapeurs-pompiers professionnels dans les casernes qui sont mixtes, et il y a des casernes qui sont intégralement où il y a seulement le chef de la caserne qui va être un sapeur-pompier professionnel, et tout le reste c'est des sapeurs-pompiers volontaires. Et ben ça ne va plus compter. Et du coup, bah, en fait, c'est encore un coût au service public, c'est encore un coût à la sauvegarde de la santé des particuliers. En fait, parce que s'il n'y a plus de sapeurs-pompiers pour venir aider les gens, bah, en fait, c'est encore les déserts médicaux qui vont en pâtir, donc encore les ruralités principalement, vont se retrouver avec des temps d'intervention encore plus longs. Déjà qu'on est sur des cas où... il faut plus d'une heure au SAMU ou aux pompiers pour intervenir dans certaines régions de France. Et bah, si on a moins de sapeurs-pompiers, moins de sorties possibles pour les véhicules, et du coup, bah, encore plus de temps d'intervention. Regardez un témoignage d'une fille qui a vu son père mourir parce que les pompiers du département étaient déjà en intervention quand son père a fait un arrêt cardiaque et que l'hélicoptère a mis 45 minutes. Donc, elle a la chance d'avoir un hélicoptère qui peut faire le trajet, mais en fait, en 45 minutes, si tu fais un arrêt cardiaque, c'est fini.
En fait, il y a ce truc en plus où déjà, parce que là, il en parlait très bien, le sapeur-pompier, en 80%, et comme tu l'as rappelé, Somat, 80% des effectifs, quand même, c'est des sapeurs-pompiers volontaires. Hein, donc, la plupart des gens, ils bossent hein, déjà en même temps. Et après, ils se dévouent.
Bénévolat.
Voilà, c'est du bénévolat. Littéralement, c'est du bénévolat. Que par exemple sur les épisodes des incendies, quand il y a eu les incendies dans l'Aude, quand il y a eu les incendies, bon bah voilà, tous les ans c'est récurrent. Maintenant on est obligé de faire venir des pompiers, des Canadairs d'Espagne, des Canadairs de Grèce, etc., etc., pour nous aider parce que on est en sous-effectif.
Faire acheter des sorts plutôt que des Canadairs.
Voilà, que le matos il est défectueux en plus dans la plupart. Si tu vous allez par exemple à Angers à la caserne de l'Académie, donc place de l'Académie, très juste à côté du entre le château et la gare d'Angers. Donc il y a la caserne, la grande caserne des pompiers. Vous interviewerez, vous demanderiez à Sébastien Delavoux, responsable de la CGT pompiers, c'est quoi l'état des camions d'urgence, des camions avec les grandes échelles au-dessus et tout. En fait, ils ont même plus les moyens de passer au contrôle technique, tu vois, parce que en fait, le département ne peut plus. Et en fait, là, ça pose aussi un autre problème, c'est que les pompiers, c'est une prérogative. Donc, les incendies et les secours, c'est une prérogative du département. Et les départements, c'est aussi les parents pauvres des collectivités locales qui ont déjà plus de moyens, quoi.
Le Pixel qui nous ils n'ont plus de médecin traitant depuis un an.
Ouais.
Seule la zone de Cholet, si je ne m'abuse. C'est quelque chose qui devient très compliqué. La santé, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, même libérales, la demande est toujours grandissante parce qu'on est sur une population vieillissante en France et surtout dans la ruralité. Hein, pour savoir que les villes drainent beaucoup de jeunes qui viennent s'installer plutôt en ville parce que pour avoir accès à des loisirs, avoir accès à la santé, à des hôpitaux, à plein de services qui ne sont plus du tout présents dans les lieux de campagne profonde.
Donc pour le coup, ça me donne envie de vous parler parce qu'on avait déjà, c'est un sujet hein, qu'on parle souvent dans l'équipe d'Infoscope, la question de la santé et aussi la question de...
Tu mets du temps à la comprendre, Abraham.
Majoritairement, encore des personnes...
Il a vraiment plus de chances de croiser dans la ville de Rennes un mec qui balade des... et de trouver un médecin. Je pense que l'histoire qu'il y a derrière, c'est qu'il a dû croiser un mec avec une Avec des tortues en laisse de Rennes.
Ah oui, d'accord.
Avec qui la patte d'un teint traitant depuis.
Ouais. 97% de l'Île-de-France est considéré comme un désert médical, donc c'est valable partout, nous dit que le Pixel. Ouais, 80% du territoire français est considéré comme un désert médical. Bah on n'a pas besoin de médecin traitant, dit Mona Roussière. Il suffit d'aller sur une plateforme. En même temps, vous êtes habitué au luxe. Merci, Mona. Alors, il faut que tu fasses le kappa. Deux points. Kappa, deux points. Parce que ça veut dire que c'est sarcastique. J'ai appris.
On se met, c'est beau.
Voilà, voilà. Votre son est de gauche. Il a tendance à être cancel par la chaîne. On a quelques petites coupures. Oui, ah. Quand on parle en même temps, effectivement, ça peut arriver, oui. Donc. Ça me fait penser que nous avons toujours notre série documentaire qui est disponible sur YouTube, que le deuxième épisode, Nous sommes en guerre, épisode 2, parle donc de... qui est nommé Lauriane du nom de l'affaire de cette pompier en formation qui a mis fin à ses jours dans le Maine-et-Loire pour cause de pression et de harcèlement au travail. Derrière son cas se cache en fait tout le malaise et tout le mal-être de la profession des pompiers du SDIS, des SDIS, services départementaux d'incendie et de secours. Donc ce documentaire est disponible sur YouTube, n'hésitez pas à le regarder. Franchement, c'est, pour moi ça a été le reportage peut-être qui a été l'un des plus intenses qu'on a mené. Parce que c'est une affaire qui touche et en fait on n'a pas l'impression parce qu'on se dit ouais les pompiers c'est les soldats du feu et donc ils sont un peu super forts, super invincibles et même c'est des métiers de caserne, hein, c'est des métiers qui sont aussi issus de l'armée et donc eux-mêmes ils véhiculent cette image viriliste de leur métier mais en fait c'est un des métiers où par exemple le taux de suicide est le plus fort de France avec
la police,
avec oui la police et agriculteurs. Donc quand même.
Oui.
Vive les documentaires d'Infoscope, ils sont trop bien. L'épisode de Lauriane est vraiment abouti, intelligent et sensible avec avec un son complètement de gauche pour le coup. Alors là, ça j'avoue, on n'avait pas l'IA à l'époque. Et les prêtres aussi. Alors là par contre je n'ai
aucun... tu parlais. L'affaire Betaram, Mona ?
J'ai pas fait de documentaire sur l'affaire Betaram.
Non, mais le...
Ah oui, oui, oui.
Le prêtre
oui,
pédophile oui. Est assez important, il paraît.
Ah oui, peut-être. Peut-être, bien, écoute. On passe à la suite ?
On passe à la suite, hein, toujours dans la bonne humeur et la joie et l'allégresse. On va parler d'une initiative populaire. Qui concerne l'hôpital d'Evreux, où un emprunt citoyen, c'est-à-dire que des citoyens de la ville ont consenti à prêter de l'argent à l'hôpital, on en est là. Dans le saccage de l'hôpital public, on en est là. On est dans un état où les citoyens obligés de prêter, et c'est à hauteur de 100 000 euros, il me semble, oui, c'est ça, 100 000 euros, à l'hôpital pour maintenir des lits. On parle de 22 lits d'hospitalisation qui auraient fermé sans le prêt des citoyens de la ville d'Evreux. Heure en scène, imagine.
Oui.
Panneau,
oui.
Je ne fais que lire. Oui. la géographie, c'est pas mon truc, vous l'apprendrez peut-être. Et voilà, on est dans un truc où c'est... Fin... Moi, je trouve que c'est super. Que les gens réussissent à se cotiser et qu'ils réussissent à réunir 100 000 euros. Et c'est effrayant de se dire que ce soit nécessaire pour éviter la fermeture de 22 lits.
Non, mais ça en dit long vraiment sur l'état de délabrement des services publics. Hein, comme tu le disais à l'instant, hein, c'est qu'aujourd'hui, on en est rendu là à avoir un emprunt populaire pour
pouvoir. On est très loin du quoi qu'il en coûte.
On est vraiment très loin du quoi qu'il en coûte. Et puis, y compris, en fait, c'est ce genre de choses. Parce que, en fait, il faut continuer à financer les services publics. Et on parle d'austérité, on parle des budgets qui ne fonctionnent plus. Sauf que, en fait, les gens, il faut quand même de la continuité dans la santé, dans le milieu de la santé. Et, alors, vous me direz, Évreux, ils peuvent être contents, puisque, a priori, Ousmane Dembélé, Ousmane Dembélé, qui vient de la ville d'Évreux, qui vient de gagner le Ballon d'Or, il pourrait mettre en.
On va réouvrir 22 lits de plus.
Ouais, voilà, avec son argent. Non, mais blague à part, et franchement, Cette histoire-là, c'est que normalement, c'est ce qui devrait s'occuper du, qui devrait s'occuper de ça, c'est la puissance publique. Et qui devrait trouver les financements, c'est via l'impôt. Et j'ai pas envie de me la refaire parce qu'on en a parlé la semaine dernière et tout sur la taxe Zuckman. Mais voilà ce qui arrive quand les riches et les ultra riches, en particulier, ne payent pas l'impôt. En fait, on finance plus les services publics. Et quand on coupe dans les services publics, voilà.
Au-delà du fait que les riches ne payent pas d'impôts, là, on est dans une politique où on essaye de, ils essayent de gratter partout, quoi. Mmh. Ils essayent de, d'amaigrir au maximum tous les services, mais c'est vraiment une volonté de nuire, quoi.
Et clairement.
Ils essayent de... c'est l'éternelle histoire de la grenouille. Si tu la jettes dans l'eau bouillante, elle saute direct. La mets dans de l'eau froide et que tu fais cuire l'eau lentement, pour nous elle finit par être cuite et à flotter parce qu'elle est décédée en fait, et c'est ce qui est en train de nous arriver en fait.
Exactement.
Ils sont en train petit à petit d'avancer, de continuer d'avancer dans un mouvement un peu continu. On a beau critiquer, mais vu que rien ne change, que les gens se retrouvent un peu noyés dans un truc où ils ont l'impression que c'est la crise, on leur martèle que c'est la crise, qu'il faut rembourser la dette. Ah, les gens se laissent dépérir.
La solidarité, la charité ne devraient pas avoir existé comme les e-events pour le coup. Si ces choses existent, c'est que le problème en amont n'est pas pris en compte sérieusement, tout à fait. C'est sûr. Mais là, pour le coup, c'est vraiment la charité qui se fout de la gueule de l'hôpital d'une certaine manière. Enfin, on en est rendu vraiment, vraiment là.
Tire sur la caravane de l'ambulance, quoi.
Sur la caravane de l'ambulance. Est-ce qu'on en a d'autres? Je ne sais pas. Donc voilà. Donc effectivement, comme le disait Mona Roussière, le 2 septembre, bah, y a manif. Ouais.
Mobilisez-vous.
Hashtag tout brûlé.
Ah ouais, ouais. Ah, le virage dans la ligne éditoriale est assez radical.
ouais, si tu veux. J'ai dit quoi le 2 septembre? 2 octobre, excusez-moi. 2 octobre, rapprochez-vous soit de vos organisations syndicales, soit des canaux Telegram, indignons-nous, et vous verrez, il y a plein d'actions qui peuvent être...
messages que je ne préférerais pas lire.
Avant d'avoir vendu la cruche, car le chien aboie. Waouh !
Un talent pour les attaques mentales.
Non mais...
en parlant d'hommes qui ont des talents, on va en parler d'un autre homme.
Yeah.
Pas tout, dommage.
Après, on a une infographie pas mal. Hein.
Vous voyez comme ça. On va parler de notre cher, de notre Nicolas Sarkozy préféré.
Nicolas le S.
Ouais. Pardon.
Notre ancien président de la République.
Oui. Oui, oui, oui.
Ah oui.
Quelle belle époque.
Bah, attends.
Quelle grande époque.
Oui.
Donc, la racaille, ça dégage.
Voilà.
Vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine, qu'il a été condamné à 5 ans de prison ferme. Bien sûr, il a fait appel de sa condamnation. Mais normalement, il y a une exécution provisoire, comme Marine Le Pen, qui est,
oui,
on le rappelle, condamnée pour détournement de fonds, qui est inéligible par voie de fait. Et bien là, cette fois, Nicolas Sarkozy devrait aller en prison. C'est toujours pas le cas, parce que bon, contrairement au mec qui va voler une bûche de chèvre et qui va se retrouver en prison le soir même quand il est condamné, Nicolas Sarkozy, il a été dans la loge VIP voir un match de foot. Tout va bien.
Arrête.
Tout va bien.
Comme dit Karine Lemarchand, on emprisonne.
Attends, c'est le sujet d'après. Ouais. Le traitement médiatique, la levée de bouclier médiatique sur les juges rouges,
ouais, c'est ça.
Qui étaient à charge contre Sarkozy, ouais, etc.
Non, mais alors par contre, il y a vraiment un truc moi que je voudrais dire, c'est que tu vois cet argument, il y a quand même un argumentaire sur le fait qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Mais en fait, c'est pas ça le problème. C'est pas, je m'en fous. En fait, on s'en fout qu'il n'y ait pas eu d'enrichissement personnel. Le problème, c'est que il a utilisé de l'argent d'un fonds souverain étranger pour pouvoir être élu. Donc, c'est littéralement un pays étranger qui a décidé de l'élection présidentielle. Donc, ça pose évidemment des questions d'ordre démocratique. C'est ce qu'on appelle de l'ingérence étrangère. Et puis surtout... Il y a un autre point.
Pas à son galop d'essai, quoi.
Et clairement pas à son galop d'essai.
Vous voyez cette magnifique infographie.
Vraiment bien faite. Hein.
Qui résume les... Alors, les faits sont en bleu. Donc, vous voyez, plus les faits sont larges, plus il y a eu Crime, hein, même si bon, y a certaines affaires où il a été mis hors de cause, représenté par des pastilles bleues. On notera quand même que au moins deux des affaires où il a été mis hors de cause, c'est notamment pour son immunité présidentielle,
oui.
Parce que les faits se sont déroulés durant son mandat présidentiel et que du coup, par la magnifique pirouette juridique, on ne peut pas condamner un président pour ses actions en tant que président. Vraiment la meilleure idée de notre constitution, si vous voulez mon humble avis. Et mais par contre, on voit que il y a d'autres procédures. On pense à Big Malion, on pense aux écoutes. Où là, il a été condamné déjà. Déjà été condamné. Et il a fait appel. Et il a quand même été condamné. Donc, il se trouve qu'il a à son actif 2 ans de prison ferme et 2 ans avec sursis. Donc, c'est pour ça qu'il avait été mis sous bracelet électronique. On lui a autorisé d'enlever au bout de 3 mois parce que c'était quand même pas pratique.
Ben c'est vrai que c'est pas pratique.
Je veux dire, c'est quand même contraignant, quoi.
Ah bah c'est sûr.
Et une petite pensée pour Balkany qui peut pas aller chercher son courrier.
Ah non, mais par contre Balkany, lui, faut le laisser en tranquillité. Non, je rigole. Évidemment que non, évidemment que non. Mais j'avoue que non, quand non, il a fait son zouk là, à la sortie du
ouais, comité, ça t'a fait un petit truc là.
Ah moi ça m'a fait. Ouais, j'avoue.
Ah ouais, moi c'est plus le commentaire après aux journalistes en disant. C'était pour prouver aux gens que la prison ne m'avait pas tué.
Mais...
Et il est sorti de prison parce qu'il n'était pas en bonne santé.
Ouais, non, mais...
Bref.
Alors, attends, Staffy qui nous a sorti un truc. Être élu permet un enrichissement personnel. Alors, oui, c'est vrai. Et en même temps, ça dépend, bien sûr, parce qu'on parle déjà de la famille Sarkozy, qui est déjà une famille plutôt méga blindée de base et tout. Donc, pas sûr qu'il y ait eu un enrichissement personnel. Les émoluments du président de la République, c'est... mal, c'est entre 12 000 et 15 000 euros.
Ouais, mais Sarkozy, il fait de son statut d'ex-président.
Par contre, ce qui lui a permis son enrichissement personnel.
Des conférences,
voilà.
Parce qu'il est en tant que président français.
Un demi-million au Qatar, il a chopé un demi-million au Qatar. Cling, tu vois, je veux dire, voilà. Son argumentaire sur l'enrichissement personnel, nous dit Abraham Licorne, c'est comme si un type qui volait une bûche de chèvre expliquait que oui, mais il n'est en aucun cas à l'origine d'une attaque terroriste. Rien à voir, c'est un bowler. Comme en jeu de rôle, le coup du « Oh, une pirogue !» pour détourner l'attention. Oui, c'est ce qu'on appelle un écran de fumée, exactement. Et il est plus tout jeune, c'est l'une des raisons du retrait du bracelet. Oui, bah alors...
Il est assez jeune pour conduire sans casque avec Carla sur une moto ou un scooter
et
poster ça sur Instagram. Je veux dire, on en est à un tel level d'impunité que le mec en a rien à foutre, quoi.
Par contre, ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, tu parles d'impunité, ça me fait dire... Et ça, c'est intéressant.
Oui, parce qu'il est condamné, mais il est toujours pas en prison. Hein.
Oui, oui. Mais par contre, il est condamné. Et ça, c'est quand même une vraie, entre guillemets, évolution positive, on va dire, par rapport à. Parce que, en fait, politiciens et des politiciennes émagouillés, bah, c'est aussi vieux que l'histoire de la Ve République. C'est même aussi vieux que l'histoire de la politique en France, tu vois. Mais que, en fait. Enfin, tu vois, on parlait de si Jacques Chirac, quand même, à l'époque, on l'appelait super menteur, tu vois, et en super voleur même, parce qu'il avait notamment utilisé et détourné de l'argent de la mairie de Paris dont il était maire pour financer sa campagne présidentielle en 1995, il me semble, pour les plus anciens du chat, si vous allez me corriger.
Mais comment tu voulais condamner un pauvre mec sénile?
Ah non, mais en tout cas, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que l'enrichissement personnel aurait été une circonstance aggravante, mais ce n'est pas un argument. Moi, je suis basique. T'as triché, tu t'es fait gauler, tu trinques. Exactement. Et là, pour une fois, pas pour une fois, mais de plus en plus, il y a l'impunité est de plus en plus condamnée. Je ne dis pas que la peine, elle est appliquée, ça c'est un autre problème, mais par contre, ça montre bien qu'aujourd'hui, bah oui, aux yeux de l'opinion publique, il y en a marre de voir des présidents de la République, de voir des politiciennes, de voir des politiciens voler, tricher.
France des honnêtes gens.
Ouais. Non, parce qu'en plus, ils nous font des leçons de morale sur qu'est-ce que c'est la probité, l'honnêteté, etc., etc. Et le problème, c'est l'immigré, tout ça. Mais balayez devant votre porte avant de nous dire quoi que ce soit, quoi. Perds tous tes ex-privilèges, voire tu dois les rembourser à partir de la date où ton fait a été déclaré. Bon. Pourquoi pas, Abraham Lincoln. Tu veux écrire la constitution de la 6ème République? Moi, je l'écris avec toi, Abraham. Hein. Pas de souci, pas de souci.
Ça va être ça, je vais le faire avec cette affaire.
Bah attends, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et par contre, ce qui est inquiétant, et ça, c'est l'attaque, par contre, contre la justice et contre l'indépendance de la justice.
Levée de bouclier médiatique est incroyablement féroce quant au juge rouge. Hein, on se rappelle des expressions utilisées par Marine Le Pen pour critiquer sa condamnation. Et bah, je trouve que actuellement les médias procèdent de la même façon pour défendre Sarkozy.
Captation d'un camp.
Mais il y a une captation de la communication.
Celui de Nicolas Sarkozy sur le récit médiatique. C'est ce
mais c'est le récit médiatique qui est complètement campé, qui est complètement capté. Bon. Et à force de mettre en cause, et puis j'ai découvert encore aujourd'hui, mais j'imagine que vous allez en parler, la participation de Madame Gavarino à une manifestation.
On va y venir. On a même retrouvé les images.
Mais on tombe dans le très sale. 2011. On tombe dans le sale, véritablement. C'est une attaque personnelle qui est complètement ridicule, mais j'imagine que j'aurai l'occasion
d'accord.
dans quelques
instants. Le mot est fort. On tombe dans le sale. Vous allez pouvoir vous expliquer. De quoi cette violence contre cette magistrate est-elle le nom ? C'est pas la première fois qu'un les magistrats après des décisions qui sont très attendues.
Ouais, un petit peu long. On va le laisser tourner en fond, mais on va continuer à discuter. Effectivement, il y a une double inquiétude. Hein. On pense à Léa Salamé ou à Karine Le Marchand, je crois, qui défendent bec et ongle. Nicolas Sarkozy et qui plaignent cette pauvre Carla Bruni hein, qui est vraiment déprimée au possible de voir son homme en prison. D'ailleurs, on le voit à son magnifique sourire sur cette vidéo, hein, juste avant qu'elle retire la bonnette, la fameuse bannette.
Oui.
Ce qui est encore plus inquiétant, c'est les menaces de mort. Parce que là, on retrouve des techniques mafieuses, hein, appelons un chat un chat, d'intimidation des juges qui ont peut-être que Mona Roussière va pouvoir nous le dire, livrer la sentence, qui ont délibéré la chose.
Qui ont jugé, quoi.
Ouais, mais il semble qu'il y a un terme juridique.
Ah oui, peut-être, je ne sais pas exactement. Elle est totalement botoxée, qu'elle ne peut plus arrêter de sourire. Son sourire bloqué cache sa vraie détresse, dit Abraham Lincoln. Bon, je ne suis pas sûr que les arguments sur le physique, ça passe. Elle est peut-être délibérée. Oui, c'est ça, c'est une délibération. Exactement. Bien joué, Staffy. Bien joué, bien joué. Toi aussi, tu es peut-être juriste, hein, je ne sais pas.
On a les viewers qu'on mérite. Hein.
Non, mais des viewers de. J'ai pas compris la question de Mona Roussière. Ouais,
comment on dit quand un juge prend une décision de justice?
Bah c'est ça, je crois que c'est une délibération, effectivement.
Délibération pour les champs. Délibère entre eux pour.
Après, ils le. Ils rendent le verdict. Je ne sais pas.
Ah, rendre le verdict, ça ressemble à quelque chose.
Ça dépend de la décision, dit Mona. Non,
on va s'arrêter là.
Non, mais bon. Et ça, si tu vois, c'est vraiment le vrai débat sur la question de l'indépendance de la justice. Et. Pour en revenir sur, notamment sur les décisions un peu... en première, il rend un jugement. Ok. Moi, j'en reviens sur une remarque sur les hommes et les femmes politiques quand ils sont jugés. Il y avait une position que j'avais trouvée un petit peu, quand même carrément scandaleuse, de la part de la France insoumise au moment de la peine prononcée par la juge sur Marine Le Pen, qui disait que le seul jugement qui doit valoir pour un homme ou une femme politique, c'est le jugement des urnes. Non, moi, je suis pas d'accord. Comme dit Mona, et je suis complètement d'accord avec toi. T'as fait quelque chose de répréhensible, t'as fait quelque chose d'illégal, tout politicien ou toute politicienne que t'es, bah en fait, tu dois payer, tu casses, tu répares, etc., etc. J'ai plus la suite de l'expression, tu vois. Les hommes et les femmes politiques, quand ils sont sujets, ils sont juste des mauvais joueurs. Bah alors après, tu vois, ça c'est le problème de l'hubris, encore une fois, c'est qu'en fait, eux, ils se voient et elles se voient comme ils sont un petit peu possédés par une mission sainte. Et ben en fait, dès qu'ils se font condamner, ben en fait, ça n'a pas de leur faute à eux, c'est de la faute du système dont ils sont les victimes. T'as qu'à faire un autre meilleur système aussi, tu vois, j'ai envie de dire. C'est aussi ton boulot en tant que politicien et de politicienne de faire un, de rendre un système meilleur. Tu es toi-même comptable et avoir des politiciens et des politiciennes et penser que les politiciens et les politiciennes soient au-dessus des lois, ah, t'es, on n'est plus en démocratie. Hein. Je suis désolé, on n'est plus en démocratie quand c'est comme ça. Hein.
Je rejoins totalement Abraham qui dit dans le chat que... ils se défendent entre eux. Enfin, moi, de ce que je comprends, la substance de son commentaire, c'est que les politiciens se défendent entre eux. Hein. On pense à la défense de Nicolas Sarkozy quand Marine Le Pen a été condamnée. Nicolas Sarkozy a dit que c'était inadmissible, que c'était pour nuire, c'était une sanction, une décision de justice politique, et etc. etc. Tout le, les violons habituels de dire que c'est un acharnement judiciaire, etc. etc. Et là, pas étonné de voir le retour de bâton avec Marine Le Pen qui va sans doute défendre Nicolas Sarkozy en disant que encore un exemple des juges rouges voilà, pour nuire aux Français respectables, aux honnêtes gens qui n'essayent juste de détourner de l'argent et voler les vider les caisses de l'État.
Clairement. Tous les partis politiques, y compris les, et les filles, ont été un peu mous sur le dossier Sarko. Bah, en même temps, et c'est ce que vient de dire Somad, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tous les partis politiques, bah, ne sont pas... ont des financements qui ne sont pas OK, en fait, tout simplement. Et après, tu vois, ça pose aussi une autre question sur comment on prend le pouvoir. C'est que la prise du pouvoir, aujourd'hui, tu ne peux pas prendre le pouvoir si tu ne triches pas. En fait, c'est ça que ça veut dire, en fait, aujourd'hui. On voit bien que les dés sont pipés et que le problème... il ne vient pas de faire de la politique. Faites de la politique. C'est important de faire de la politique. Le problème, c'est que prendre le pouvoir, vous êtes obligé de tricher. Et donc, ça pose la question de la Ve République. Est-ce un régime fondamentalement démocratique? Si pouvoir prendre le pouvoir, t'es obligé de tricher, en fait, ça pose la question de la probité de ton système. Enfin, voilà quoi. Alors, ça c'est un peu, ça s'est un peu chauffé là, sur le chat. Mais quand c'est...
Et Macron, de toute façon, là en ce moment, il part appeler Trump et mettre ça sur ses réseaux sociaux pour dire qu'il est bloqué. Il va reconnaître la Palestine. On n'entend pas trop parler. Hein. Il se fait tout petit, là, Macron. Hein. C'est très bien que ça chauffe pour lui. Même le cornu, hein, on ne le voit pas apparaître sur les plateaux télé. Il n'est pas interrogé, il n'est pas interviewé. Il nous donne pas beaucoup de grains à moudre en ce moment, hein. Il profite de cet effet un peu transitoire, on va dire, un peu de stase avec le gouvernement démissionnaire qui continue d'œuvrer dans l'ombre, hein. Il continue de faire passer des décrets, il continue d'abuser de tous les appareils politiques dont ils peuvent abuser pour faire passer des réformes sur les budgets, enfin pas des réformes, mais du coup tout ce qu'ils peuvent, toutes les cordes qu'ils ont alors là, arc.
Alors Mona et dit Macron, il a plein de casseroles, donc après son mandat, il a des cheveux à se faire. Bah moi je pense...
Uber, pas peur, non ?
Alors oui, il y a les questions sur Uber, effectivement. Enfin, il y a plein de choses.
Conflit d'intérêt,
McKinsey, tout ça, tout à fait.
Je n'ai pas vu avec McKinsey, parce qu'effectivement, ils en ont abusé, mais pendant son mandat présidentiel, donc... Est-ce qu'il va être inquiété pour ça vraiment?
Bah, on peut voir. Hein,
Parce qu'il utilisait peut-être déjà McKinsey quand il était.
Oui, je crois. Macron, il est dans la bulle internationale histoire de laisser les choses se décanter pendant qu'il fait des choses qu'il aurait dû faire longtemps avant. Mais dans tous les cas, c'est des choses hypocrites. En fait, et ça, c'est aussi, ça montre bien un peu la nature du débat auquel on vit actuellement. Donc, moi, je le reconnecte aussi, par exemple, avec le débat sur. Sur à la fois le débat entre guillemets fiscal autour de la taxe Zucman et puis maintenant le débat judiciaire autour de la condamnation de Nicolas Sarkozy, on voit que la population française elle se passionne pour ce genre de choses. Il y a quelque chose à dire, c'est que en vrai de vrai, et ça c'est peut-être un point qui est positif selon moi, c'est que on en a marre, nous le peuple, on en a ras-le-bol. Et Macron, il a des soucis à se faire, mais pas après son mandat, pendant son mandat, là, maintenant, tout de suite. En fait, il a des soucis à se faire, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est la banane, que c'est la rodka, et que en fait, bah...
Il est temps d'aller le chercher.
Tout brûlé, quoi.
Règle 2 septembre.
Hashtag 2 septembre. 2 septembre, 2 octobre, 2 octobre, 2 octobre. Tu m'as eu. Mona Roussière, j'aime bien votre ton. C'est vachement posé et travaillé. Bravo, les gars.
Merci.
Hashtag kappa ou hashtag pas kappa?
Moi, je le prends de façon premier degré.
Allez, vas-y, on est team.
Premier degré.
Coucou, Libébule.
Hello.
Défendre aujourd'hui l'État de Palestine alors qu'il y a quelques mois, il vendait des armées à Israël. Bon, qui continue à en vendre d'ailleurs. C'est juste un retournement de veste de dernière minute qui montre juste que c'est les enjeux internationaux qui comptent et pas réellement les conséquences sur les humains. Merci Mona. Bah, en plus,
ça va droit au cœur. Tant qu'on est dans les compliments, on va aussi parler de l'article que tu nous as suggéré qui est très intéressant et qui rejoint très exactement le tunnel d'une heure et demie que j'ai mis à Adam la dernière fois à propos de Charlie Kirk. Est-ce qu'il faut se réjouir de la mort d'un influenceur d'extrême droite, et il y a un peu cette vibe dans l'article d'enfin assumer de se réjouir en fait quand les gens passent l'arme à gauche ou tout simplement quand il leur arrive des condamnations. En fait, tout le monde peut, et je pense que tout le monde devrait se réjouir de la condamnation de Nicolas Sarkozy. Tout le monde devrait être attristé de l'absence d'exécution de la peine. Peut-être qu'il ne soit toujours pas en prison à l'heure actuelle, c'est un drame.
Abraham Lincoln, je ne suis plus Charlie.
Exactement. T'as loupé un long moment de.
On s'est battu. On a failli en venir aux mains. La semaine dernière, c'était horrible. Alors, c'est un point de vue, hein, franchement, effectivement, qui.
Ah oui, encore une toujours fois... ancré sur ta position de.
Non, mais.
On peut pas. T'as même pas levé un petit verre de champagne. Toujours là, quoi. Vraiment ?
Non, mais.
Ça t'est chevillé au corps.
La mort, ça me rend triste. Voilà, je le dis comme je le pense. Moi,
On peut entendre, mais il y a des morts plus douces que d'autres.
Des morts plus douces que d'autres, oui, mais j'entends cette position.
Et voilà.
J'entends cette position. Attention de ne pas vous éloigner de
nous. Oh, pardon.
C'est nous.
On se fait rouspéter là.
Par l'Ibébule, bah après, voilà, moi je veux dire, on verra ça, elle verra ça avec. Voilà.
La glissade.
Ouais, non, mais c'est bon, ça.
Il est temps qu'on fasse une petite pause, je pense.
Ouais, c'est vrai qu'on
avant
va.
Avant la suite.
On va pas tarder, ouais, effectivement.
Je vérifie juste de quoi on parle. Oui, très bien, ouais. On va faire une pause maintenant.
Ouais.
On a traité nos deux premiers sujets. C'était donc la santé et la condamnation de Nicolas Sarkozy. J'espère que ça vous a plu et on vous retrouve
très vite, Mona. Donc voilà.
Dizaine de minutes.
Voilà, on fait comme ça.
À bientôt, Mona. Heureux, est-ce que vous êtes toujours là? Oh là là, vous étiez là dans le chat en tout cas. Je commente la pause.
Non, en fait, c'est juste moi qui étais dans le chat. En fait.
C'est juste Adam qui est comme ça, il tremble, il n'en peut plus l'interaction. Là, il a besoin de vous.
C'est clair. On est toujours là. Je s'appelle Groot.
On est là.
Oui, voilà, c'est ça.
On est là.
Hop.
Même si Adam ne veut pas, nous, on est là.
Détendez-vous.
Non, mais c'était pour ma transition, parce que tu vois, on va parler des manifestations.
Il n'est pas tout seul dans le chat, mais Abraham Lincoln, tu es un peu ma moitié, en fait, finalement, tu vois.
C'est beau, l'amour.
C'est clair. En fait, je suis la moitié de plein de gens, moi. Mon cœur est grand, prenez-le, allez-y.
Ouh là là. Nous allons, cela ne nous regarde pas.
Voilà.
Du coup, on va parler des manifestations parce qu'on a parlé beaucoup du 2 octobre et tout ça. Et on se faisait la réflexion en off avant le live que, en fait, la colère elle gronde un peu partout, elle est en train d'enfler un peu partout. Comme les dirigeants de certains pays, comme les États-Unis, sont en train de serrer la vis pour s'orienter de plus en plus vers le fascisme. On pense notamment à ICE qui déporte des immigrés, hein, parce qu'ils ne portent pas que ça. Et même si.
Né aux États-Unis, c'est des immigrés quand même.
Voilà, hein, pour Donald Trump, c'est des immigrés. Exactement, tous en colère, tous mobilisés. Et on voulait avoir une petite pensée pour ce qui s'est passé au Népal. Donc, au Népal, ils ont la jeune génération à comment. Putsch,
Bah, ouais, ils ont fait carba, quoi.
Ils ont mis en place très large éventail d'actions, allant du blocage aux barricades, avec des conflits avec la police très très violents, qui ont donné lieu à des scènes un peu, on dirait, lunaires par chez nous, parce qu'on est un peu désensibilisé de cette violence-là. Il y a eu des lynchages publics, hein, notamment du ministre de l'économie.
Ouais, c'est ça, au Népal. Au Népal. Oui, c'est ça, au Népal, ouais.
Tu dis quoi ?
Non, c'est.
Ok. Du coup, au Népal, il y a eu un gros mouvement social qui s'est soldé par des nouvelles élections, voilà. Organisées d'ailleurs sur Discord. Pour montrer vraiment que...
Voilà, c'était la fin du gouvernement communiste.
Ouais, alors on met des guillemets à communiste. Hein,
voilà.
Respect, parce que c'était vraiment le communisme. On dira que c'était un gouvernement dictature gangréné par la corruption, hein, parce que ce qui a déclenché au Népal, c'est la corruption excessive, notamment du ministère de l'économie qui touchait quelques pots de vin. Qu'ils ont ramené en slip du coup jusqu'à chez lui. Ouais. Et il y a eu des violences sur sa femme aussi, je crois. C'est un peu malheureuse parce que je crois que sa femme, elle a des problématiques de santé, donc du coup, c'était pas fou. Il y a eu aussi la chasse au premier ministre
du Népal.
Donc voilà, ils ont viré tout le gouvernement et ils ont réorganisé des élections. Donc un vent nouveau souffle au Népal, porté comme par sa jeunesse.
Comme sur la Bretagne armoricaine.
Ouais, j'aime beaucoup cette chanson, mais je vais pas retenir. Et du coup, c'est toute cette corruption a entré dans un contexte de crise. Très importante avec des problèmes d'acheminement des ressources, etc. Là, on peut voir par exemple sur l'image qu'il y a eu quelques camions brûlés, et du coup, tous ces jeunes ont réussi à aller jusqu'au bout de leur action. Nous, on pense qu'il faut des actions comme ça un peu partout dans le monde, hein, pour montrer aux puissants que ce n'est pas eux qui détiennent vraiment le pouvoir. Les Népalais nous ont gentiment rappelé que c'était le peuple qui détenait le pouvoir par sa masse et son grand nombre. Et un autre fait très intéressant, c'est...
Gabriel Attal serait heureux.
Gabriel Attal serait... Je ne sais pas s'il serait très heureux, parce que c'est quand même l'effondrement d'un genre de système qui te défend. Ah oui, c'était pas au début. Non seulement ils mettent de l'ordre dans la vie politique, mais après avoir organisé le désordre, le chaos et la lutte, les Népalais se sont mobilisés pour réparer tout ce qui a été cassé, tout ce qui a été brisé pendant les manifestations.
Ce prolapsus que tu viens de me faire, Adam Fourage, j'ai rien fait. J'ai juste rappelé qu'Abraham Lincoln... Ah oui, Abraham Lincoln et Gabriel Attal. Je sais pas pourquoi. Je trouve que t'as un petit côté... Oui, parce que j'ai voulu dire... avant de dire Gabriel Attal, j'ai fait Abra et Gabriel Attal. Non, mais faut pas que tu le vois contre
non,
toi.
Non, mais faut pas le prendre personnellement. Non. Il te déteste. Mais,
mais je te déteste de manière figurative. Mais je te déteste. Mais voilà, c'est pas... Oui, voilà. Oui, voilà.
Oui, mais du coup, oui, parce qu'on parle de Gabriel Attal, parce que le titre de la séquence, c'est « Tu casses, tu nettoies », ou pour le coup, Népalais, je ne sais pas s'ils ont connaissance de ce magnifique discours très éloquent de Gabriel Attal, mais en tout cas, ils ont...
Je suis obligé d'aller prendre mon traitement, merci. Alors par contre, je refuse d'être considéré comme responsable, ok, de ça, ok. J'aurais été ton voisin dans les années 40, peut-être, mais... On n'y est pas.
Et du coup, qu'est-ce qui nous amène à cette réflexion sur le Népal ? Parce que ça fait quand même plus d'une semaine, le Népal.
Oui.
C'est pour ça qu'on peut voir
même
aussi...
Beaucoup plus qu'une semaine. Au moins un mois. Je me rappelle...
C'est fini il y a un mois.
Ah, ça a commencé il y a un mois.
Il me semble que j'ai hésité à le mettre dans le dernier runner. Donc
Ouais. Et bah, y avait... Mais déjà, parce que moi je me rappelle quand, y avait eu la fête... quand j'étais à la fête de l'UMA, on parlait déjà de cette.
Ouais, mais c'est commencé, parce que c'est des conflits qui ont duré quand même plus. Sauf que ça a été étalé sur quelques semaines. Hein.
Oui.
C'est pas des conflits gentils, mignons,
oui.
où en un coup ils sont montés jusqu'au. Parce qu'ils ont été jusqu'au Parlement népalais, du coup. Et ils ont foutu le feu au Parlement d'ailleurs népalais. Donc tout ça, ça a été des conflits qui se sont étendus sur plusieurs semaines. Et en parlant de conflits qui commence à s'étendre un petit peu, et toujours dans un esprit de mobilisation de la Gen Z, comme on les appelle, les jeunes, du coup, sont aussi mobilisés à Madagascar. Alors là, c'est pour une autre problématique que la corruption. Peut-être que c'est un peu lié à la corruption, mais ils ont des problèmes d'acheminement de ressources, tels que l'eau, l'électricité, c'est un problème courant. Madagascar, parce que c'est une île et du coup, les infrastructures ne sont pas toujours ultra opérationnelles là-bas.
On te rappelle que dans les années 2000-2010, il y a eu des cas de peste bubonique hein, qui avaient été déclarés à Madagascar. Pour dire à quel point c'est clairement le tiers-monde, hein, Madagascar. Hein.
Et du coup, dans cet élan.
On parlait de ça, du terme Gen Z, pas de soucis, pas de soucis.
On en parlera après, parce que du coup, sinon, je vais faire tunnel encore sur Gargamel, là, je vais rien comprendre. Et du coup, à Madagascar, il y a une mobilisation très forte, notamment sous... Ils ont retravaillé le One Piece. C'est un des étendards de la mobilisation là-bas, avec un chapeau qui n'est pas à paille, qui est un... Enfin, si, peut-être que c'est de la paille, qui est un chapeau traditionnel de Madagascar, du coup. Et du coup, ils ont, c'est leur étendard, c'est qu'ils utilisent pour se flouter. En fait, ils utilisent un masque pour que ça apparaisse à la place de leur visage quand ils sont sur des mouvements et tout ça. Donc, si vous voyez si vous cherchez sur les réseaux sociaux des vidéos de Madagascar, vous avez des chances de voir la tête de mort de One Piece, mais avec un chapeau différent. Et bah, c'est parce que c'est un emblème en fait de ce mouvement social. Comme le One Piece commence à être un emblème un petit peu réutilisé dans beaucoup de mouvements sociaux autour du globe, hein, pas seulement en France. On en voit en France, mais on en voit aussi, on en a vu au Népal, on en voit aujourd'hui à Madagascar. Du coup, bah là, c'est le bras de fer s'intensifie. État de plusieurs morts déjà à Madagascar. Donc, comme on a fait état de plusieurs morts au Népal, donc là, il y a vraiment une répression. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a une répression policière très importante avec des méthodes de dissuasion qu'on connaît aussi en France, base de grenades lacrymo, de policiers ou de CRS, enfin ou les équivalents équipés comme nos CRS à nous, avec des boucliers, etc. Et en fait, ça, c'est un truc où ça peut peut-être jouer en la défaveur la mobilisation à Madagascar, parce que au Népal, c'est pas le même niveau d'équipement. C'est encore sur, c'est pas les boucliers portes, quoi, les boucliers très longs comme mon OCRS. C'était des boucliers ronds qu'ils avaient au début des manifestations, en tout cas les forces de l'ordre. Et là, par contre, ils ont l'air très bien équipés à Madagascar. C'est une colonie.
C'est une colonie française, bien sûr.
Donc voilà, peut-être qu'il y a eu quelques checks.
Des transferts de technologie.
Voilà, ouais. Hein, pour faire respecter l'ordre en place et continuer de pouvoir exporter des denrées. Je crois que c'est il y a quand même des ressources à Madagascar qui sont exportées.
Alors je crois notamment.
Des produits exotiques, il me semble.
La vanille.
La vanille, ouais. Je crois que c'est un gros exportateur de vanille. Et malheureusement, clairement, cette abondance d'export ne profite pas aux habitants, ou pas à tous. Ouais, c'est un des problèmes majeurs.
Dommage que Clojard, elle soit pas dans le chat, parce que c'est...
Elle aurait pu nous en parler.
Ouais, elle aurait carrément pu nous en parler un peu mieux. C'est un peu elle, notre expert de cette région du monde, quoi, tu vois. Donc oui, voilà, Madagascar, les mobilisations ont fait au moins 22 morts, selon l'ONU.
Des articles plus récents, publiés aujourd'hui.
Là, on voit, hein, ils sont bien équipés, hein, je veux dire, les casques.
Les mêmes types de vestes tactiques.
Voilà, donc ouais. Donc voilà, bah là,
surtout
là,
bien, là, hein. Ce genre d'équipement, ce genre de photos avec des équipements qui nous rappellent malheureusement les heures les plus sombres des manifestations.
C'est-à-dire maintenant, quoi.
Contrôle les retraites.
Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, bon, c'est ce qui se passe actuellement. C'est ça, les heures les plus sombres. On y est dans les heures les plus sombres. Alors, sur. Parce que je vais quand même revenir sur ce que tu disais, Abraham Lincoln, sur le terme Gen Z. Je suis un peu d'accord avec, avec ce que tu dis par rapport à ça. Enfin. Faut pas voir ce mouvement comme un mouvement générationnel. En plus, tu vois, on parle de One Piece, mais One Piece, ça a 25 ans ou 30 ans, tu vois, je veux dire, comme manga. Donc voilà, c'est, ça date pas tout à fait d'hier. Pour moi, ça en dit long de parler de Gen Z sur, ça en dit plus sur comment voient les médias, et notamment les médias français et occidentaux, comment ils voient les manifestants que la réalité même de ce que c'est les manifestants. Parce qu'en fait, on disait un peu la même chose avec le printemps arabe il y a une dizaine d'années, quand tu commençais à utiliser les réseaux sociaux. Ça a été un peu la même chose aussi avec, avec les gilets jaunes quand on commençait à utiliser, enfin, quand on voyait qu'on utilisait les réseaux sociaux pour s'organiser. Mais il y a quand même un vrai fait, c'est qu'il existe une jeunesse à l'échelle internationale, une jeunesse dans le mode d'action, c'est-à-dire de, on utilise les réseaux sociaux, on s'organise de manière différente que avec les syndicats ou etc etc. C'est qu'il y a une vraie jeunesse en termes de d'impact de la mobilisation, mais il y a aussi une jeunesse et qui a beaucoup de jeunes qui se mobilisent. Ouais, tout simplement parce que les jeunes sont les prolétaires du 21e siècle, en fait, tout simplement. Et qu'en fait, on a construit un monde, le monde post-45, sans eux et sans prendre en compte leurs besoins. Nous, on est tous un peu de la Gen Z d'une certaine manière, même si on n'est plus de la Gen Z tout à fait. Mais...
un millénial ?
Ouais, je suis post-millénial. Oui, je suis millénial, par exemple. Ouais, je suis né avant
95.
97. Bah, moi, je suis né en 97. Alors, il y en a qui me disent que c'est la génération.
Millénial, et moi, je suis Gen Y.
Voilà, mais en réalité, il y a un grand mouvement de fond que, je veux dire, que ce soit toi ou que ce soit moi ou que ce soit même les générations d'un peu après, le monde, il n'a pas été bâti pour nous. Nous, on est les générations de la crise, quoi, tu vois ce que je veux dire ?
Non, mais je pense qu'il y a un vrai truc de les populations qui se mobilisent, c'est des populations plutôt jeunes. Même en France, hein, pour la mobilisation du 10 septembre, heureusement qu'il y avait des lycéens mobilisés.
Bien
hein.
sûr, bien sûr.
Parce que, et c'est eux qui constituent le gros de la masse, parce que, à part quelques syndicalistes chevronnés d'expérience, qui voilà. sont là quand même pour accompagner cette jeunesse, pour que jeunesse se fasse, il y a quand même. Moi, j'ai quand même retrouvé un peu l'ambiance des blocus. Comme quand j'étais lycéen, quoi. Il y a un peu ce truc de, en fait, de le moment où tu as les capacités de pas aller au travail parce que t'as pas de loyer à payer, t'as pas de machin. C'est aussi des gens, c'est aussi les jeunes, quoi.
Exactement. Et tu vois, là, c'est, Abraham Lincoln, je suis aussi d'accord avec toi. Hein. Heureusement, ça fait que, et heureusement, ça fait qu'il y a plusieurs forces d'impact et de mobilisation différentes qui s'appliquent pour bouleverser les États qui se sentent intouchables. Tu vois, ouais, pour les manifs du lycée, a priori, Abraham et Somat ont quelque chose à régler par rapport à ça.
Un passif en commun.
Un passif en commun, bon. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, ça montre bien une chose, que tu vois, le capitalisme, et là, ça y est, c'est le moment où je fais le...
tunnel.
Le tunnel marxiste, jingle marxiste, c'est la lutte finale.
Faut vraiment qu'on investisse dans des transitions comme ça, mais le problème, c'est qu'à chaque émission, on a une transition différente.
On a une nouvelle idée, donc du coup, ça ne marche pas, tu vois, bon, bref.
Et la transition marxiste, je la vois bien avec un fond rouge et puis la tête de Marx.
Exactement.
Il y a moyen de faire un truc, il y a moyen.
On va voir.
On va réfléchir.
Mais bon, en tout cas, il faut que je vous prenne un petit peu. Carrément.
Il a une boîte à musique qui fait l'international.
Ah ouais, je la connais, je l'avais offerte à ma première petite copine.
Oh là là.
C'était mon cadeau d'amoureux.
Quel charmeur.
Eh oui, c'était à l'époque où... bon, bref. Le capitalisme, de toute façon, il a tendance à exploiter l'homme, et, enfin l'être humain et la nature all around the world, partout dans le monde. Et en fait, il y a une...
Et Mr. Worldwide.
Oui, Mr. Worldwide. Et en fait, forcément, nos conditions de vie ont tendance à converger. Attention, j'ai dit qu'elles ont tendance à converger. Ça ne veut pas dire qu'on vit, nous, en tant que Français, la même chose que vivent les Malgaches. Évidemment que non. Bah, je veux dire, on est vraiment tous les deux nos moitiés. Et ce n'est pas la moitié d'un con. Ça dépend. Ça dépend. Donc, voilà. Aujourd'hui, il y a une véritable convergence de nos modes de vie, de notre... Et c'est normal, hein, parce que de toute façon, le capitalisme va se répandre partout et son mode de vie aussi. Donc, c'est normal aussi que nos aspirations, mais nos colères, nos modes d'action aussi, ont tendance à devenir de plus en plus similaires. Maintenant, la vraie question aujourd'hui qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est possible pour nous, prolétaires de tous les pays, n'est-ce pas, jeunes de tous les pays, prolétaires de tous les pays, de s'unir, de s'organiser pour, à tout à l'heure, Abraham, de s'organiser pour créer un monde meilleur. Parce qu'on voit très bien que si, par exemple, on virait Macron, en fait, le problème, il ne serait pas réglé pour autant. En fait, je veux dire, il faut créer une nouvelle gouvernance mondiale, quoi, j'ai envie de dire. C'est aussi ça, l'enjeu. Ensemble, plus fort. Exactement, et là oui on peut parler de Mr. Worldwide.
Otro mundo es posible.
Vive l'union. L'union soviétique.
Ah, très...
Allez, transition.
Transition en parlant d'union.
Oui, voilà.
On va parler de notre cher confrère et
camarade. Allez, vas-y.
On va parler des social traites.
On va parler du PS, ouais.
Social démocrate.
Oui, oui.
Et notamment avec cette magnifique vidéo, j'ai eu une petite pensée émue pour mes amis rennais.
Tant le Parti Socialiste trahit, c'est simple. On est lundi 22, il est à peu près 22h30. Le conseil municipal est toujours en cours ici à la mairie de Rennes. Ce matin, la majorité municipale a installé un drapeau palestinien sur le front de l'Amérique.
Long, comme disait de des côtes,
cette incessante demande de la France insoumise.
Exploser les oreilles.
Alors, il est 22h30. Le drapeau, il n'est plus là. Pendant que Marie Messmer...
Donc voilà, il faut savoir qu'il y a un acte 2 à cette vidéo, parce que des manifestants rennais ont remis le drapeau jour de la déclaration Il était remis après, mais il a été réenlevé avant 22h par toujours la même mairie. Hein, donc, nos très chers... Comment tu dis ?
Par le PS.
Ok. Je savais que cette vidéo allait te convaincre. Du coup, on est un peu... Ici, à la rédaction d'Infoscope, on est un petit peu sans voix. Quant aux exactions de nos amis socialistes, hein, ça fait un moment, hein, pas vous cacher, tout le monde ne partage pas cet état de cause, mais force est de constater que les exemples sont de plus en plus multiples. Il y a eu une histoire avec un article du Monde qui a été supprimé, puis remis. Je ne sais pas à l'heure actuelle l'état, s'il est toujours en ligne ou pas. Mais cet article mettait en lumière notamment les agissements du PS quant aux questions du gouvernement François Bayrou. Je trouve que le PS rédigeait les réponses de Bayrou pour les questions qu'il lui posait lors des séances à l'Assemblée nationale. Donc voilà, hein, la concomitance, on comprend mieux pourquoi il n'a pas été viré tout de suite.
Ouais.
Et peut-être que la posture actuelle du PS est de dire que Olivier Faure dit non, là c'est la censure, il n'y a pas de changement dans les méthodes, hein. C'est la censure. Peut-être c'est parce que, comment il s'appelle, Sebos n'est pas trop d'accord, on lui donne les réponses à apporter quand on lui pose des questions.
Tout à fait. Alors, en sachant
que le gant n'est pas de velours, comme
voilà,
comme notre ami
Franc,
il souffle.
Ouais. Et en fait, y a quand même un truc, c'est que la méthode d'envoyer en amont d'envoyer en amont les questions au gouvernement, ça c'est un truc qui existe depuis très longtemps. Sauf que c'est quelque chose qu'on fait quand on est membre de la majorité, hein, pas de l'opposition. Ouais, t'envoies pas les questions au gouvernement quand t'es de l'opposition. Forcément, t'as envie de le piéger, le gouvernement. Donc, ça montre bien que les socialistes, et en particulier les députés socialistes, qui ont été élus grâce aux voix de Bibi.
Parce que sinon, ils font 1%.
Hein. Mais voilà. Donc, c'est grâce à nous hein, qui sont, enfin, nous voilà.
Collectivement.
Voilà, collectivement, qui sont élus quand même. Les gars, ils s'assoient vraiment, vraiment bien dessus. Évidemment.
Je n'ai peut-être pas été tout à fait clair, mais en fait, ce n'est pas juste les questions qui étaient envoyées. C'est les réponses attendues par le Parti socialiste.
Oui, d'accord, je n'avais pas compris ça.
Il y avait la double peine. C'était autant la question qu'ils allaient lui poser que la réponse qui leur convenait et qu'ils accepteraient d'entendre. Et
en fait, si tu veux, l'idée, par exemple, du conclave, par exemple, t'imagines, en fait, si on est un peu des complotistes, tu vois, ça aurait été une idée PS envoyée, tu vois, pour dire voilà, comme ça au moins on fait machin.
On ne sait pas, le doute existe.
J'aurais aimé avoir les mêmes interros. Ouais,
j'aurais aimé. Bon, après, il y a quand même des passages où il a été autodidacte. On va pas lui envoyer le plus gros son travail. Hein.
Oui.
Je pense que les socialistes n'étaient pas forcément très enclins à le faire mentir sur Betaram.
Oui.
Enfin, j'ose espérer qu'encore le côté tu vois social encore présent dans ce parti.
Oui, bon, ils ont fait le taf sur Betaram, c'est vrai, mais bon. La présidente avec
c'était une
sauce, ouais. Sûrement sur la thématique des étoiles.
non mais c'est possible,
c'est vrai débat et vraie question, puisque aujourd'hui on voit qu'il y a une vraie déconnexion entre entre guillemets le militant socialiste et le dirigeant socialiste, et peut-être probablement entre le dirigeant socialiste et l'électeur socialiste. Moi j'ai envie de poser une question quand même aux militants. Vous attendez là en fait, est-ce que
déjà Olivier Faure, mais je pense que la déconnexion elle va loin encore que ce que tu as évoqué, parce qu'il y a les dirigeants, mais déjà les dirigeants, il y a la branche Carole Delga, Conti, les racistes,
ouais.
Il y a la branche hollandiste,
ouais.
Et il y a la branche Union, avec Faure, qui a, je pense, rassemblé des voix dans une majorité de la base des encartés du Parti Socialiste, mais qui en fait ne fait pas du tout l'unanimité chez les dirigeants. Et en fait, Faure, il se retrouve un peu dans un positionnement où tout le monde se barre, hein, tout le monde va faire des allers-retours entre place publique, bah oui, parce qu'en plus, il y a aussi place publique qui essaie de se positionner, machin. Donc, je pense que là, on est sur une hydre à 5 ou 6 têtes, en fait, et que Olivier Faure n'est plus maître à bord, en fait. À l'étiquette d'être maître à bord parce que ça convient aux militants Parti Socialiste. Mais les militants socialistes ont été dire à Olivier Faure pendant la fête de l'UMA, bon, ça va être dur d'être socialiste en fait,
bah,
d'assumer
oui.
D'être socialiste en fait, parce que en fait c'est la honte quoi, enfin politiquement c'est la honte quoi. Je veux dire, les socialistes c'est quand même un mouvement de gauche à la base. Il y a eu Hollande entre temps, on peut se poser des questions. Où est le curseur, où est la limite, est-ce que la loi travail c'est de gauche,
la réponse non.
Est-ce que la gauche caviar c'est toujours la gauche,
la réponse non.
Voilà, on peut soulever plein de questions.
Les 80 000 euros d'Anne Hidalgo là pour ses frais de vestimentaire, évidemment ça c'est pas de gauche non plus, hein, on vous confirme.
Alors, ça c'est une question qui est difficile parce que et surtout pour le cas d'Anne Hidalgo, vu que c'est une femme, je trouve que la question vestimentaire mais revient tellement dans le débat public que bon gré mal gré c'est un petit peu obligatoire, tu vois.
Ah oui, en plus elle est maire de Paris, ça je suis d'accord.
Pour donner un exemple, Mathilde Panot, dès qu'elle met une robe à fleurs, le CNews et BMW
yes,
il commence à se faire tard. Oui. BFM sont en boucle là-dessus à dire que c'est une souillon machin, mais
oui, oui.
On entend des trucs sur l'apparence de la femme et sur comment les femmes sont habillées. Et même sur les hommes, hein, on rappelle aussi, on repense à Raphaël Arnaud qui est venu au Parlement, enfin, à l'Assemblée nationale, et on lui avait fait passer la consigne d'être bien habillé. Bah, y a un truc de Abraham. Il y a un truc de l'apparence, du costard-cravate, faut que ça
alors,
fasse
je chic. Suis d'accord, en particulier quand tu es maire de Paris. Tu es maire, oui. tu es la maire de Paris, donc là, forcément, tu dois représenter un truc.
De la mode.
Par contre, 80 000 boules, au bout d'un moment, il faut arrêter de sortir.
C'est des frais, je pense que là, ça sort, parce que ça nourrit un argumentaire.
Ouais, l'ambiance scandale.
De dire que... ok, Rachida Dati, elle a 400 000 euros de bijoux non déclarés,
oui.
Mais Anne Hidalgo, elle a acheté 90 000 euros de vêtements.
Dior, Prada,
est-ce que c'est pas prévu ? C'est pas parce que tu vois, c'est comme les députés, dès qu'ils sont un peu mal habillés ou pas machin, on leur fait valoir qu'ils ont une prime pour ça. Enfin, les députés, ils ont une enveloppe qui est spécialement dédiée au fait de... d'être habillé avec une certaine classe, une certaine élégance.
Je suis d'accord, mais
ça nourrit. Pour moi, ça, c'est le genre de truc qui nourrit encore un truc qui est nourri. Je suis tout à fait d'accord de critiquer 90 000 euros, c'est indécent. Plus de trois fois le SMIC annuel, c'est complètement indécent. Mais là encore, tu vois, comme on questionnait tout à l'heure, qu'est-ce qui est l'œuf ou la poule, bah là, en fait, je pense qu'il y a un truc encore plus malsain que cette histoire de 90 000 euros, c'est pourquoi on en arrive là, quoi.
Oui.
Pourquoi il y a un besoin, qu'est-ce qu'il a raconté encore pour...
il veut devenir député pour acheter des caleçons. Présente-toi à la mairie de Paris, de toute façon, il y a un Parisien sur un qui se présente à la mairie de Paris en ce moment, donc...
Allez, let's go.
Donc, vas-y, Abraham, moi je vote pour toi, hein, ça c'est sûr. Hein.
Ah ouais. Tu auras deux voix. On vote pas à Paris, mais...
Voilà. Tu auras au moins notre soutien.
Et si tu viens te présenter à la mairie d'Angers, tu auras deux votes contre toi.
Tu auras deux votes avec toi.
Ah oui.
Ouais.
Pardon,
je pense qu'Abraham Lincoln, il a plus de chances d'unir la gauche que pour l'instant toutes les listes de gauche qui se présentent. Mais bon, après...
Est-ce que tu as été faire un tour à son truc de renaissance T'as vu le truc de Béchu, là, autour de l'Ice Park et tout ça?
Non.
À quoi ça ressemble?
Non. J'ai pas regardé. J'habite juste à côté en plus.
Ouais, mais c'est une dinguerie. Hein.
Ouais.
Tant d'argent payer des architectes là, pour faire des verreries, des machins. La ville du futur, quoi. Le mec est vraiment dans un délire mégalomane de dire.
Ah, tu veux dire les nouveaux bâtiments là?
Oui.
Ah oui. Ah, bah, ça, je l'ai vu. Je ne vois que ça.
Et après, on s'étonne. Angers, il y a sur les 3 ou 4 dernières années, la taxe foncière, elle a triplé, quadruplé.
Oui.
C'est une des villes les plus endettées de France.
Oui.
À hauteur je crois que c'est 3 ou 4 fois son budget annuel.
Clairement, oui, exactement.
On avait fait, je ne sais plus si on avait fait un article ou si on en avait parlé dans une émission, mais. Incroyable, quoi.
Oui.
Enfin, je veux dire, l'écart est démesuré, quoi.
Tout à fait. Et d'ailleurs, ça m'étonne.
On peut trouver des.
Vas-y, pendant que tu es en train de rechercher.
Comment ça s'appelle?
Tu mets quartier, éco-quartier à côté de l'Ice Park ou un truc comme ça, tu trouveras. Hein.
Ah oui, c'est son fameux éco-quartier.
Ouais. Et donc, du coup, bon, en revenir sur ce truc-là, d'ailleurs, moi, je serais même pas étonné que Béchu lui-même, il ait payé. Des dizaines, voire peut-être des centaines de milliers d'euros en gomina et en vêtements. Hein, donc, bref. Voilà. Le truc, pour en revenir sur le problème du parti socialiste. Attention, si je passe au pouvoir, vous savez que ça peut vite dériver. Certains m'ont vu en JDR, je peux être sans gain. Sans gain. Kappa cool. Staffy dit, je me base pas sur le JDR TQT. T'inquiète pas. En même temps, si tu commences à diriger une ville comme tu es en train de diriger un jeu de rôle, franchement...
quelques problèmes.
Ouais, Abraham, non, s'il te plaît. Mais pour en revenir sur la question du Parti Socialiste, et effectivement, moi, c'est pour ça aussi que je me mets à la place des militants et des militantes du Parti Socialiste, et même de certains militants et de militantes, parce que j'en avais parlé avec des militants et des militantes de... place publique, la fête de l'UMA, ça existe, des militants et des militantes de place publique à la fête de l'UMA.
Ils
étaient littéralement deux, d'ailleurs, ces militants, effectivement, qu'on a vu. mais qui avait adhéré à Place Publique à l'époque où il y avait, par exemple, Thomas Porcher, l'économiste un petit peu célèbre, qui travaille pour le Média et qui est un économiste atterré, un économiste de gauche, par rapport à ça. Et donc, ils se sont engagés, pas pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui, Raphaël Glucksmann a pris le pouvoir. Mais à un moment donné, c'est aussi ça, c'est que quand on dit qu'on a les dirigeants qu'on mérite, c'est qu'il y a aussi un enjeu, nous, enfin, en tout cas, les militantes et les militants, à se poser la question d'aujourd'hui, comment on fait pour faire vivre les idées de telle ou telle partie de gauche et arrêter de se faire trahir, quoi. Parce que, non, mais mes intentions sont bonnes, juste, vous ne m'avez pas compris en mode Macron style. Ah, oui, c'est qu'en fait, oui, voilà, c'est ça, c'est que tu ne dirais pas que c'est un échec, c'est que ça n'a pas marché. Je vois, Abraham. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, il l'a trouvé. À quoi ça ressemble ? On en est là, ça y est, c'est le futur.
Le futur, c'est maintenant.
Le futur, c'est maintenant.
On est en 2025, c'est toujours pas fini. Hein,
mais... Non, mais voilà.
Voilà les plans d'architecte,
voilà,
à quoi ça doit ressembler.
Voilà, le chantier métamorphose, voilà.
Métamorphose, c'est ça.
C'est ça. Alors du coup, dans 10 ans, ça aura mal vieilli, mais c'est pas grave.
Ça a déjà mal vieilli.
Oui, voilà, donc super, ça fait trop
bien,
plaisir.
Ça, c'est super bien vieilli, t'as un carré comme ça.
Ouais, j'adore. Avec les jardins de Babylone et tout, bon bref.
Gentrification.
Elle gentrification. Donc voilà, on était sur un lieu où il y avait des... c'était un centre pour réfugiés, hein, ce quartier métamorphosé à la base, hein, je tiens à le rappeler. Alors j'avoue que pour les goulinoises de Rennes, on en battait les steaks, mais quand même pour nous, je veux dire, c'est quand même chaud.
On a eu un petit peu d'actu à Terre-Rennaise avec le drapeau de la mairie.
Oui, voilà, donc c'est bon. Hein.
C'est aussi un petit peu le tour d'Angers, hein,
partage,
chacun son tour.
Partage,
voilà,
mais donc voilà, pour terminer quand même sur cette histoire-là, et c'est aussi vraiment la responsabilité des militantes de aussi se dire qu'il faut peut-être penser à faire changer les choses, parce que c'est bien de se dire à la fête de l'UMA, tu vas voir Olivier Faure et lui dire bon, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire quelque chose et tout. C'est une autre chose aussi de s'organiser. Quand tu payes ta cotisation à une organisation ou quand tu rejoins un groupe d'action, parce que c'est vrai qu'à la France Insoumise, tu payes pas de cotisation, mais bon, c'est la même chose. Bah, quand t'es pas content, en fait, mais que t'es quand même sincèrement convaincu, désolé. Et à un moment donné, il faut aussi, entre guillemets, prendre son courage à deux mains et être capable de se dire qu'on va changer les choses. Je vais vous faire une petite confidence, mes amis goulinoises. J'ai été adhérent au Parti communiste français.
Ah bon ?
Hasard de dingue. J'ai été adhérent au Parti communiste français. Bon, Fabien Roussel, j'allais dire Marine Le Pen, tu vois. c'est chaud.
Le lapsus.
Choqued.
Choqued est déçu ou juste Choqued ?
Ouais, voilà. Quand Fabien Roussel, il a été...
Le roi de la saucisse ?
Oui, le roi de la saucisse a été élu à la tête du Parti communiste français. Vous imaginez bien que je n'étais pas tout à fait d'accord, tu vois. J'étais pas OK avec ça. J'ai tout fait pour essayer de m'organiser, pour pouvoir empêcher ça.
Je me souviens de cette triste époque.
Eh oui.
T'es obligé de le défendre.
Ben oui, je faisais le service après-vente et tout. Et à un moment donné, et c'est une décision qui me concerne moi et moi-même, hein, d'ailleurs j'ai aucun problème avec les camarades, voilà, le Parti communiste, ça restera cœur sur vous, quoi, tu vois, je veux dire, sur les camarades communistes. Mais moi, à un moment donné, quand j'en ai eu marre, en fait, je suis désolé, j'ai décidé de me barrer, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et c'est aussi ça, camarades socialistes. Je veux bien comprendre que vous, vous y restez par fidélité à l'idéologie, par esprit de camaraderie, peut-être par amitié aussi avec les relations que vous avez nouées, etc. etc. Mais un parti politique, une orga, en fait, c'est pas la cour de récré. C'est une orga. L'objectif, c'est de prendre le pouvoir quand même à un moment donné. Voilà.
Merci pour ce tunnel sur le parti socialisme.
On est passé du PS au Parti communiste.
Ouais.
Tout y était.
Mélangé.
Là, c'était clairement barbecue.
L'adéquation avec la base, tout était magnifique. Merguez, comme
oui,
on dirait.
Exactement.
Dans certaines autres émissions.
Voilà. Abonnez-vous à Barbecue Sports Club. Voilà. On n'y est pas du tout.
Non, pas du tout.
Non. C'est pas comme une secte. On peut
je voulais rebondir sur. Je ne comprenais pas trop le problème sur les nouveaux immeubles. Si c'est pour virer des réfugiés, ce n'est pas la même. Faut savoir que Péchu, j'avais lu un interview, voit son urbanisme comme un moyen de chasser les étrangers.
Oui.
On est parce que là c'est un truc qui se veut écologique. Il y a des arbres machin et tout ça. Béchu a été débouté par son conseil municipal parce que il voulait notamment, moi j'habite à La Roseraie et il voulait construire un mur vert, ce qu'il appelle un mur vert à La Roseraie pour chasser les quartiers populaires.
Oui.
Pour vider les quartiers populaires de leur aspect populaire et les rendre côté gentrification. Ouais, je pense que là, on est...
Gentrification hardcore, quand même.
C'est presque... Moi, j'apparente ça à de l'écofascisme. Moi, clairement, pour moi, Béchu est un écofasciste en puissance, notamment pour ça, notamment pour, effectivement, l'histoire de... Parce qu'il n'a pas été supprimé complètement, cet accueil de réfugiés. Il a été délocalisé. Alors les conditions, c'est au bord de l'autoroute, à la même chose qu'avant, là où c'était dans la ville.
Le nombre de places à
diminuer et tout ça.
Fois 3, enfin, à tripler de diminution, quoi.
Donc voilà, donc c'est quand même catastrophique. Le truc est clairement dans une volonté de nuire la France aux Français, hein, je veux dire. Ça m'a même pas étonné, parce que de le voir remettre des chèques aux dirigeants de la FNSEA pendant la montée des agriculteurs sur Paris. Hein. Je pense que là, on est sur une... Je pense qu'il a quelques casseroles. Hein.
Bah, clairement, il a des casseroles. Pas de souci. Clairement, il a des casseroles. Et tu vois, je veux dire ce truc où en fait, on se rend compte, parce que voilà, le design des bâtiments avait un petit côté Neom qui se développe au Qatar. Neom, c'est en Arabie Saoudite, Staffy, mais oui, tout à fait.
C'est en Arabie Saoudite aussi. La ligne.
The Line.
The Line.
Bah ouais, c'est Neom. En fait, on parle tous les trois de la même chose.
Okay,
tout va bien. Okay. Tout va bien. Oui, effectivement, et tu as tout à fait raison, Staffy, ce côté, le design des bâtiments, parce que je crois que c'est les mêmes designers, en fait.
Ah.
Voilà. Il y a ce côté, tu vois, ville intelligente en plus, comment on dit, smart city, tout ça.
Voilà, smart city.
Écofasciste, ça fait bizarre comme terme. D'un côté, on a du mal à associer l'écologie et le fascisme, mais au final, en voyant écofasciste, je comprends que c'est du fascisme éco plus. D'ailleurs, vous avez un peu d'écho. Ah, pardon, excusez-nous.
Excusez-nous, c'est parce qu'on s'emporte.
On s'emporte.
Mais alors, écofasciste, c'est pas du fascisme, mais éco plus. Et encore plus, c'est la théorisation de. Il y a une crise écologique, c'est la reconnaissance par le fascisme de la crise écologiste. Et Hitler était un des premiers écofascistes parce que bah, le côté vegan, machin, c'est un peu du fascisme greenwashé. C'est-à-dire que pour lutter contre la crise climatique, eh ben, on extermine les pauvres. Et comme ça, il y a moins de gens, moins de pollution, moins de voitures. Et donc, du coup, plus de crise climatique. Et du coup, là, je viens de vous résumer l'écofascisme. Et si vous vous souvenez du jeune matrixé qui avait assassiné une fille parce qu'elle avait à Nantes, parce qu'elle avait comment dire, parce qu'elle avait refusé ses avances. Et ben, dans un premier temps, les médias l'ont présenté comme écolo, comme un militant écolo. À cause de cette composante de l'écofascisme. Et en fait, c'était un nazi notoire qui avait déjà été expulsé de son lycée à cause de ça, à cause de ses propos, on dit
Négationniste.
Négationniste, merci. Et du coup, bah, en fait, tout ça, c'est un faisceau en fait, où c'est pour ça que, par exemple, c'est Hugo Clément, je confonds toujours. Hugo Sénéchal
Non, Clément Sénéchal qui est un camarade, du coup. C'est Hugo Clément, effectivement.
C'est Hugo Clément qui est allé à un parti du RN.
Oui, tout à fait.
Et c'est pour ça qu'il peut aller à un parti du RN, parce qu'en fait, il y a cette notion d'écofascisme qui est très présent dans les cercles fascistes, du coup, et néo-nazis, où, en fait, pour eux, l'extermination d'une partie de la population est bénéfique parce que ça nous sauvera. Je mets beaucoup de guillemets dans ce que je dis, hein. Ne faites pas des clips, je vous en supplie. Ça nous sauvera du réchauffement climatique.
Comme avec le H, le côté national-socialiste ne l'a pas empêché de mener une politique sociale, mais la partie nationale nous rappelle qu'il profitera de cette politique. Je mets des gros guillemets doubles. Oui, oui. Oui, t'as tout à fait raison, Abraham. Pour aller dans ton sens, tu sais, tout ça, c'est des questions qui sont historiques. Hein, et c'est Quand on pense au mouvement Quaker, par exemple, aux États-Unis, qui prône un retour à la fois à la terre, mais à la fois à la religion. Il est fort.
Quoi ? T'es si fort en transition ?
Ah oui.
Parce que du coup, on va parler voilà. de Charlie Kirk.
En fait, c'est que l'écologie, et c'est pour ça qu'on dit, et c'est pour ça qu'il y a une expression, moi, que j'adore, c'est ce slogan. L'écologie, sans lutte des classes, c'est du jardinage. Hein. Tout le monde est écologiste. Hein. Tout le monde est écologiste hein, à partir de ce moment-là. Hein. En fait, faites attention. Hein. Je veux dire, et Christophe Béchu, il en est la preuve fondamentale. Et dire, et je te laisserai parler de Charlie Kirk juste après, que ce gars, il va gagner l'élection municipale en 2026, quasiment sûr, à cause de la nullité, justement, des dirigeants de gauche à Angers, bah, en fait, au bout d'un moment, ouais, bah oui, mais je tire à vue, je m'en fous. Cardia, tout est là. Bon, si t'es pas là, je t'embrasse. Mais du coup, c'est aussi à cause de cette. C'est pour ça aussi que terminer aussi de notre responsabilité, nous en tant que militantes et militants, de prendre les choses en main si on veut vraiment que ça change.
Alors, désolé de peut-être casser tes rêves, Abraham, mais Trump se dit anti-écolo. Hein. Il y a clairement un énorme pan. Tous les fascistes ne sont pas éco-fascistes.
Ah oui,
il y a énormément de gens qui pensent que tous les climato-sceptiques en fait ne reconnaissent pas l'arrivée du réchauffement climatique. En fait, disent que c'est un effet normal dû à des éruptions solaires. Enfin, on est dans un argumentaire très.
Après, sans vouloir défendre Abraham Lincoln, tu ne touches pas mon Abraham. Il a dit intelligiblement se dire anti-écologie. Est-ce que Donald Trump est intelligible ? Oui, bon, si, oui, c'est
bah, pour une malheureusement. Partie, pour la majeure partie des Américains, il semblerait, oui, en tout cas. Mais bon.
Real baby, real, oui.
Eh oui. Bon, mais donc, du coup, hein. Pour revenir sur ce bon Charlie, on voulait. Passer un extrait parce que vous voyez les gens à ne pas fréquenter, hein, tout simplement.
Charlie, des affiches qui reprennent le slogan apparu après le massacre de la rédaction de Charlie Hebdo.
Parce que du coup, déjà ils osent reprendre le Je suis Charlie en hommage à Charlie Hebdo. Et en plus, il y a, du coup, ça c'est des influenceurs d'extrême droite, hein, tous, autant ceux que vous allez admirer. Là. Et c'est vraiment, comment dire, ah bah elle, je crois qu'elle est du collectif Nemesis, si je ne dis pas de bêtises, on va parler tout à l'heure. Et oui, et ce fameux histoire du chapelet avec le grand retour de la religion dans la politique, même française. Et enfin, je veux dire, c'est on marche sur la tête, hein Vous. Donc là, vous voyez la femme de Charlie Kirk qui s'est empressée en fait à Marguerite Stern, comment on dit TERF mais de haute TERF, voltage, ouais. Protect the Doll, hein, n'oubliez pas. Et du coup, la femme de Charlie Kirk, elle n'a pas attendu longtemps Damien Rieu, l'homme sans père, qui est un militant xénophobe notoire et qu'on compare notamment à Charlie Kirk, dans le sens où ils ont les mêmes idéologies, c'est du copier-coller, hein, ils ont pris le calque.
C'est vrai qu'il y a un côté ouais, Charlie Kirk chez Damien.
Il n'aime pas trop qu'on le compare parce que du coup, bah, ça voudrait dire qu'il va finir par se faire tuer par un mec qui est plus radical que lui. Hein. Ouais. Pour rappel, Charlie Kirk, tu disais le nom ?
Groyper.
Et donc un mouvement fasciste américain, c'est un Groyper qui a tué Charlie Kirk.
Kirk. Bon, c'est pas grave. Charlie Kirk.
Et du coup, oui, je disais, par rapport, on voit la magnifique gilet pare-balles sous sa veste. Donc audacieux, mais pas téméraire. Et du coup, sa femme, elle s'est empressée de reprendre l'activité familiale. Hein. C'est elle qui est devenue la nouvelle influenceuse à la place de son mari. Ça, même pas une semaine après sa mort, quoi.
Oui.
Donc elle est vraiment dans un deuil profond et ça y va quoi sur les saillies xénophobes, antisémites et tout ce que tu veux. On va bientôt, je pense qu'elle va avoir des sorties sur l'avortement, sur le droit des femmes prochainement, hein, parce que c'est la lignée directe de ce que disait son mari. Donc voilà à quoi on en est rendu quoi. Donc voilà, je voulais un peu parler encore de notre cher ami
de Charlie Kirk. Et alors pour parce que moi il y avait un truc, je n'ai pas montré ça, mais j'en avais parlé. Alors d'un côté ça fait mal au cul parce qu'on ne peut pas interdire des gens un meurtre. Ah mais non, mais Abraham, là tu commences pas à refaire le débat de la semaine dernière.
Il fallait venir la semaine dernière ou mettre des commentaires dans la vidéo de la rediff.
Voilà,
qui arrivera la semaine prochaine. Être avec vous.
Et, mais il faut qu'on se batte pour éviter qu'il continue d'en faire un martyr, mais ça rend difficile malgré tout l'ignominie de Kirk de défendre l'acte ou de le publier. Et pour expliquer le cas qui est plus profond et grave quand on s'en inquiète. Oui, bon, bah effectivement, tu mettras un commentaire sur la rediff de la semaine pro.
N'hésite pas. Ou même la regarder et mettre un petit like. Ce sera parfait.
J'étais malade, je dois remettre fatigue. C'est pas un argument, ça, Abraham. Ce n'est pas un argument.
Si, c'est un argument.
Bon, très bien, c'est un argument.
Droit au repos, tout ça.
Ok.
Bon.
D'accord. T'as le droit d'être en PLS.
On fait pas du stalinisme ici. Hein.
Et c'est. Je me tais. du coup, non, mais pour revenir, en fait, il y avait un.
On va repartir en
un gars sur.
Parce que là, il reste 12 minutes.
Allez, un petit tunnel de 2 minutes.
2 minutes.
Top chrono. Okay, top chrono. Non, mais c'est pour montrer aussi à quel point, on, avec le décès de Charlie Kirk, on est tombé dans une certaine forme de. Enfin, le curseur a encore augmenté dans le débat. Là, tu vois, quand tu vois déjà dire. Enfin, Damien Rieu dit que Quotidien, c'est la gauche radicale. Tu vois, tu dis waouh, c'est chaud. J'ai vu sur Twitter des gens qui disaient il faut un procès de Nuremberg pour tous les militants de gauche, wokistes, etc., etc., qui se réjouissent de la mort de Charlie Kirk, tu vois. Je veux dire, un procès de Nuremberg. Alors évidemment, il fait référence à Nuremberg 45, ou il fait référence à Nuremberg en 1935, où effectivement, le régime nazi avait décidé de mettre en procès tout ce qui était de gauchistes, syndicalistes, communistes, sociodémocrates, qui avaient trahi pourtant déjà à l'époque, de juifs, de tziganes, d'handicapés, comme on parlait en début d'émission, etc., etc. Est-ce que c'est ce Nuremberg-là qu'on veut, là, vraiment, vraiment, sincèrement ?
Celui qu'ils veulent.
Mais et est-ce que les gens, la parole est devenue tellement lâche, enfin libre, libérée par rapport à ça, qu'on en est capable de se dire ce genre de choses ? Parce qu'à partir de Nuremberg, on sait comment ça a fini. C'est-à-dire avec la solution finale. Je suis désolé. Désolé.
Mais la solution finale, on pensait pour Rachel Kahn.
Rachel Kahn, ouais.
Mais tu vois, là, c'est aussi le problème. C'est la fameuse fenêtre d'Overton, en fait. Moi, je me souviens, il y a 5-10 ans, on faisait la blague. C'est plus une fenêtre, c'est une baie vitrée.
Oui.
Déjà. Non, c'est la véranda, quoi.
C'est clair.
Là, on est arrivé à la véranda, quoi. Le fascisme est complètement décomplexé. Sa place sur les plateaux télé, avec Bolloré, avec Bouygues aussi. Hein. Faut pas y aller, hein, parce que bon, le parrain de Louis Sarkozy, c'est quand même
Martin.
Martin. Et il a une part belle dans les médias. Et je suis prêt à parier que nous a fait du dog whistle toute sa vidéo sur Menton, là, ou sur sa vidéo de campagne, là. Ça n'a été que ça. Et ça ne sera que ça encore pendant très longtemps, pendant que jusqu'à ce que vous manifestiez le 2 octobre.
Voilà.
Pour aller,
Hashtag tout brûlé.
Tout brûlé. Hashtag tout brûlé. Tout cramé pour reprendre.
Voilà.
Parce que bon, on est quand même dans un truc, dans un petit délire où ils se permettent de plus en plus de choses assez incroyables.
Et surtout de mentir.
Et de mentir à foison, même sur leur diplôme désormais.
Ah là, c'est beau. Hein.
Notre cher Sebos, il n'a pas dit grand-chose, mais déjà, il a menti. Sur le peu qu'il a dit, il a réussi à mentir. Et notamment sur le fait d'avoir un master en droit, qui est faux. En fait, il n'a jamais eu son master en droit, mais ça ne l'a pas empêché de se trouver une justification en disant qu'il y avait un master en droit. Donc voilà, c'était pour finir sur une petite touche sur Sebos.
Donc Sebos, le Premier ministre, pas notre ficus ?
Non.
De verre du film des Simpsons d'Overton bientôt sur nos écrans, dit Abraham Lincoln. Exactement. Wow. N'achetez pas Logocratie, ne faites pas le. La concurrence, c'est mal, ok. Abonnez-vous à Infoscope.
Mais vous pouvez faire les deux, hein, si vous êtes assez riche pour ça.
Oui, voilà. Mais si vous n'êtes pas riche.
Mais si vous devez choisir, choisissez Infoscope.
Quand même.
J'avoue. Un peu de dignité.
Quand tout le monde ment sur son CV, dit Stasi.
Ah ouais.
Oui, mais.
Alors, moi, je suis dans une situation un peu inverse. Moi, je dois retirer des diplômes de
mon CV
pour trouver du boulot.
C'est ça.
Sinon, on me dit que je parle trop.
Trop diplômé.
De mes études.
Surqualifié, comme ils disent.
Ouais, bah, ça coûte cher, quoi. Ouais, je veux dire.
Mais là, tu vois, ce genre de truc, ça date pas d'hier parce que je t'en parlais en off.
Ah, mais là, c'est la crise, là c'est catastrophique, là.
Et oui.
Là, l'emploi prend des coups de savate. J'aimerais bien qu'on nous ressorte les chiffres du chômage. Tu vois, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Là, je pense qu'actuellement, on est très loin des bilans positifs de quand il avait radié tous les chômeurs là, en changeant les catégories. Là, je pense que si on refaisait un petit sondage ou un petit enquête, là, je sais pas ce qu'ils foutent. Mais je pense que ce serait le bon moment, là.
En fait, ce qui est fou, parce que, tu vois, j'ai eu un plan, j'ai bossé vite fait vendredi, tu vois, je veux dire, et tout.
Travailler. Oui. Un mec de gauche qui travaille, incroyable.
Oui. Il y avait un ou deux anciens potes de la fac avec moi, tu vois. Avec moi en train de bosser. Enfin,
ouais.
Enfin, dans l'intérim, etc., etc. Enfin, tu te dis, voilà. Enfin, t'as rejoint ce que tu dis, quoi.
Là, oui, un mec... Avec un master aussi qui était en train
ouais, donc
bon, ouais, tu sais que bientôt là dans quelques mois ça va m'arriver aussi hein.
Oui, non mais c'est ça.
Donc
je veux dire
ça ne m'étonne absolument pas hein. Je pense qu'il y a une vraie crise du travail hein, et on va nous dire que c'est que les jeunes veulent pas travailler machin. Moi de mon expérience personnelle, quand tu essaies de travailler même avec des diplômes, ça n'intéresse personne.
Oui.
Tu peux postuler partout où tu veux, mettre ton CV partout dans toutes les boîtes, c'est le néant.
Alors pour revenir sur vite fait le cornu, Sébastien le cornu, moi ça me fait penser à cette histoire de Jean-Christophe Cambadélis qui avait été donc ancien député socialiste, président du, enfin premier secrétaire du Parti socialiste, qui a été président de l'UNEF, je voulais faire un truc en même temps, mais bon, c'est pas grave, qui a lui aussi triché sur ses diplômes pour obtenir sa thèse et tout, enfin, donc c'était vachement bien. Donc comme quoi, ça date pas d'hier de mentir sur ses diplômes, mais quand même, ça la fout mal. Je peux devenir ministre de l'éducation avec ce CV tout à fait véridique. Oui, si tu veux, tu peux être...
Ça dépend, tu vas pote ou pas.
Peut-être.
Si tu vapotes dans l'hémicycle, il y a moyen.
Voilà. C'est vrai que... Ah ouais, j'avais oublié, mais oui, c'est vrai qu'Elisabeth Borne, elle est ministre... Parce qu'elle est démissionnaire aussi en même temps. Elle est démissionnaire.
Pour l'instant.
Elle a démissionné.
Peut-être aux armées. Hein. Borne aux armées. Moi, je vois bien Borne aux armées.
Non, je veux pas.
Parce qu'elle a vraiment la posture de... Ah, comment ça s'appelle, cette mouvance-là, de l'ordre à tout prix, là. C'est un mouvement politique, là, tu sais, où ils sont les forces de l'ordre, oh, c'est trop bien. Je parle régalien.
Ouais.
Très régalienne dans sa posture.
Oui,
bon.
Oui, elle est rigide, quoi. On va bientôt finir hein, sur cette phrase.
On est déjà en train de dépasser. Voilà. Ah non, même pas.
Non, on a encore 5 minutes.
On a encore 5 minutes.
Bah écoute, c'est l'occasion pour nous de vous dire.
On a beaucoup de conneries, donc je pense qu'on est beaucoup fatigué.
Oui, c'est sûr. Non, mais en tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir suivis, les Goulinoises. Ça fait extrêmement plaisir.
J'espère que ça vous a plu, cette émission, encore une fois.
En tout cas, nous, c'est plaisir. Hein, voilà.
On a bien rigolé.
Voilà, c'est
bien cracher notre venin comme il faut, je pense.
Voilà, saison 2.
Surtout n'importe qui.
À la semaine prochaine, nous dit Staffy. À la semaine prochaine. L'occasion pour moi, quand même, de dire que n'oubliez pas d'être donateur, quand même, à la cagnotte.
Je rigole.
Ah, quelle blague. Il a failli.
Pour la cagnotte, il y a le roi.
Mais voilà, donc devenez donateur, donatrice vite fait à la cagnotte sur Hello Asso. Pour toutes les personnes qui sont donateurs, donatrices, il est vraiment de gauche la cancel culture. Vous aurez le droit au documentaire La fin de leur monde qui va sortir, Inch'Allah, bientôt. Je vous le jure.
Il va sortir.
Mais voilà.
Pas quand, nous-mêmes, on ne sait pas quand. On aimerait vous le dire, mais.
Voilà. Quand on aura fini la post-prod, en tout cas. Voilà, see you next week en lurking. Et ben, see you next week. Il cancel même ses mates. et puis voilà, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce qu'on doit dire de plus?
N'oubliez pas, le 2 octobre,
ah, oui.
Tout cramé.
Et
Banda!